Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
On écoute le monde changer avec vous, avec l'information, le débat d'idées et la culture. Et mon invité exceptionnel ce soir est Roselyne Bachelot à 18h20 sur notre antenne. Remplir les musées, les théâtres, les cinémas face à l'inquiétude sanitaire, cela relève-t-il d'une mission impossible? Elle nous répond, la ministre de la Culture, au cœur de ces journées du patrimoine. 19h40 pour une chanson dans la tête. Et bien Fabien Lecoeuvre nous entraîne justement dans les coulisses d'une salle historique, une salle mythique, l'Olympia. L'Olympia et Europe 1, c'est aussi une grande histoire, musicorama culte, notamment les Beatles, janvier 64. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something. 18h30 sur Europe 1, comme chaque samedi, chaque dimanche, le débat des grandes voix. En une semaine, les admissions en réanimation pour Covid ont bondi de 48%. Quelle marge de manœuvre pour Emmanuel Macron dans cette gestion de crise? 19h15, ce sera la réalité de terrain qui parle, puisque je reçois le président de la région Grand Est, également médecin urgentiste, Jean Rotner. 19h30, dans le journal de l'environnement, on fait un zoom sur les risques sanitaires liés à la 5G, avec un petit village breton également à la une, à la pointe des technologies vertes. Et puis nous parlerons évidemment sport à la veille de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. L'information, la semaine et le week-end ne s'arrêtent jamais. On retrouve pour le journal de 18h Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il y avait 1 mètre d'eau sur la route et la voiture a flotté, elle est partie dans le courant.
L'équivalent de 3 mois de pluie en 12 heures, voilà ce qui est tombé par endroit dans le Gard qui est en vigilance rouge. Ce soir, une conductrice est toujours portée disparue.
À l'étranger, le bras de fer entre Trump et Biden après la mort de la doyenne de la Cour suprême, la juge Ruth Bader Ginsburg, icône des droits des femmes. Le président Trump veut une nomination sans délai pour remplacer cette juge progressiste.
La mobilisation des anti-5G à Lyon pour répondre à Emmanuel Macron.
Et puis 4 fois moins de visiteurs pour les journées du patrimoine à l'Élysée. Accueil réduit à cause du coronavirus. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus. Merci de votre écoute.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce sont donc des trombes d'eau qui sont tombées sur le Gard depuis ce matin. Un département qui a basculé en vigilance rouge en début d'après-midi, Fabienne.
Des pluies qui ont provoqué des cumuls sans précédent. Valérie Darmon, qu'on retrouvera à la fin de ce journal, m'a dit qu'il était tombé en 12 heures. Écoutez bien l'équivalent de 3 mois de pluie dans certains endroits. On va faire le point ce soir avec vous, Nicolas Feldman, sur le front de ces inondations avec le Gardon en crue. Et d'abord donc une personne toujours portée disparue.
Oui, une infirmière surprise au volant de sa voiture par la montée des eaux. Cela s'est passé dans un hameau à Saint-André de Magencoule. Christophe Boisson, maire de la commune.
Il y avait 1 mètre d'eau sur la route et la voiture a flotté, elle est partie dans le courant. Voilà. Ben là, les pompiers sont venus avec un hélicoptère, mais le problème, c'est que les intempéries ne permettent plus de voler. Donc, on attend que les conditions soient meilleures pour reprendre la recherche de la personne, en espérant qu'on puisse le refaire avant la tombée de la nuit, sinon ça ne va pas être possible.
Alors, les fortes pluies continuent de tomber en ce moment sur le département. L'Hérault est en crue, tout comme le Gardon. À Saint-Jean-du-Gard, le maire raconte avoir vu sa commune inondée par 4 mètres d'eau en à peine une demi-heure. Conséquence, eh bien, les routes ont été coupées, 200 personnes mise en sécurité dans un gymnase. Plus au sud, à Anduze, un important dispositif a été déployé avec un poste de commandement, 4 groupes de sauvetage en eau vive et 2 hélicoptères. Les autorités du département appellent les habitants à la plus grande prudence. Le message, restez chez vous et cherchez au maximum à vous réfugier en hauteur.
Merci Nicolas Feldman. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation dans le Gard sur le front des inondations. Notez que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place demain.
À l'étranger, aux États-Unis, nous sommes à 6 semaines, Fabienne, de l'élection présidentielle. Et la mort, cette nuit à 87 ans, de la doyenne de la Cour suprême, la juge Ruth Bader Ginsburg, provoque un bras de fer, littéralement, entre Donald Trump et Joe Biden.
Il faut dire que l'enjeu est de taille, car la Cour suprême est une institution clé qui touche aux libertés publiques avec des juges nommés à vie. Le président américain veut remplacer au plus vite cette femme surnommée RBG, tellement elle était populaire, véritable icône des démocrates, très engagée dans les droits des femmes, notamment le droit à l'avortement. Et donc, Marion Gauthier, Donald Trump vient de dire qu'il voulait une nomination sans délai et ce choix sera lourd de conséquences.
Oui, parce que, comme vous l'avez dit, les juges sont nommés à vie. Sur 9, il n'y en a plus que 3 progressistes. Donc si Donald Trump place un 6e conservateur dans le plus haut tribunal du pays, cela peut transformer la politique américaine pour les décennies à venir. Car il faut bien comprendre que la Cour suprême des États-Unis n'est pas comparable à aucune juridiction française, insiste Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
C'est cette cour qui prend les décisions finales, que ce soit sur la peine de mort, sur le mariage gay, sur l'emprisonnement, sur la liberté de parole. Enfin, tout ce qui fait la vie des citoyens entre eux, c'est vraiment la Cour suprême des États-Unis qui guide la nation vers où elle doit aller, vers le meilleur ou pour le pire, suivant les opinions politiques.
Alors effectivement, Donald Trump peut désigner très rapidement le ou la remplaçante de Ruth Bader Ginsburg, mais cette nomination doit être validée par le Sénat. Et là, le Parti démocrate et son candidat Joe Biden peuvent freiner la procédure, décrocher le téléphone, appeler chaque sénateur républicain et en convaincre quelques-uns de ne pas donner leur vote pour que le choix du président n'obtienne pas la majorité. Des ministères peuvent être négociés. Tout se joue dans les prochains jours. En 2018, lors des précédentes élections présidentielles américaines, Barack Obama avait nommé un juge à 237 jours de l'élection. Le Sénat ne l'a jamais convoqué.
Marion Gauthier.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Retour en France avec plus de 13 000 cas de Covid enregistrés hier, un record en 24 heures.
Et en Ile-de-France, où le plan blanc a été activé, les lits de réanimation sont de plus en plus occupés par des patients Covid. C'est ce qu'expliquait ce matin sur Europe 1 Aurélien Rousseau, le patron de l'Agence régionale de santé.
20% à peu près des lits de réanimation sont occupés par des personnes avec le Covid. Donc cette progression, elle est lente, elle est progressive. Mais elle est quand même aujourd'hui, tous les jours on constate, on a pris encore hier 27 patients de plus en réanimation. Pourquoi on dit qu'il faut réagir aussi fort? C'est parce qu'on ne pourra pas vider les réanimations comme on l'a fait la première fois. On a reporté des opérations, il y a des gens qui attendent des opérations, donc la déprogrammation, on ne la fera pas de la même manière, on ne pourra la faire que ciblée. Donc il faut réagir et on a encore le temps de réagir.
Aurélien Rousseau, invité de Pierre de Villeneuve dans la matinale.
Beaucoup de frayeur à Marseille après une fusillade devant une école maternelle. C'était hier en fin d'après-midi.
Un homme a été grièvement blessé. Heureusement, cela a eu lieu avant la sortie des cours dans le 16e arrondissement, quartier dont Samia Ghali est élue. Samia Ghali, pour qui le pire a été évité grâce au personnel.
L'équipe enseignante, la directrice et le personnel municipal, franchement, je salue leur sang-froid parce qu'elles ont été au top. Imaginez si les enfants étaient sortis au même moment, quoi. La bousculade, la peur, enfin l'angoisse, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est dramatique, c'est une honte pour la République. On ne peut pas être tout le temps sur le fil du rasoir et on ne peut pas toujours se dire « ouf, heureusement que les enfants ne sont pas sortis à ce moment-là ». C'est tout simplement le manque d'effectifs qui est toujours omniprésent à Marseille, de policiers, et qu'on joue avec la vie des gens. Moi, je demande qu'il y ait un contrat entre la ville et l'État sur la question de la sécurité à Marseille.
Et Samia Ghali, deuxième maire adjointe de Marseille avec Caroline Baudry.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Le journal revient dans un instant avec la mobilisation des anti 5G à Lyon. Ils étaient plusieurs centaines venus répondre à Emmanuel Macron.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Avec Fabienne Lemoyle pour vous informer et la mobilisation des anti-5G aujourd'hui dans la ville de Lyon. Une chaîne humaine, Place Bellecour, une conférence aussi, Fabienne, pour expliquer pourquoi, selon ces militants, cette nouvelle technologie est dangereuse.
Et ils étaient 300 venus répondre au président de la République, Jean-Luc Boujon.
Macron, c'est foutu. Les amis sont dans la rue. Vive la lampe à huile. Macron, c'est foutu.
Amis chez Lampe à huile, le président de la République a fourni cette semaine aux opposants à la 5G une matière première idéale pour leur slogan. Des opposants qui, comme Bertrand, n'ont pas digéré le discours d'Emmanuel Macron.
Ce monsieur sait ce qu'il fait, c'est volontairement poser l'adversaire dans une position caricaturée. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il tienne ses engagements sur la Convention citoyenne et ses propositions. C'est-à-dire que ce monsieur s'était engagé à prendre les propositions de la Convention citoyenne sans filtre. Et dedans, il y a un moratoire sur la 5G avec un vrai débat éclairé sur la question. Et on n'a pas envie de revenir à la lampe à huile et au chariot à bœuf, quoi. C'est ahurissant d'être traité de cette manière par ce monsieur.
Car pour les opposants, la 5G constitue un vrai risque pour la santé des êtres humains, explique Sandrine Laritza de la coordination Stop 5G Auvergne-Rhône-Alpes.
Les dangers en fait sont aujourd'hui reconnus par le Centre international de la recherche contre le cancer puisque les ondes électromagnétiques ont été classées potentiellement cancérogènes en 2011 par cette annexe de l'OMS. Donc c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui on n'est pas des cobayes. Ce modèle-là, on n'en veut pas.
Et les opposants brandirent l'exemple suisse où le réseau 5G a commencé d'être déployé avant d'être mis en pause récemment par les autorités qui souhaitent mener des études afin d'avoir une idée plus précise des effets réels d'une technologie encore peu connue.
Jean-Luc Boujon.
Et on vous précisera davantage encore ces risques sanitaires à 19h20 dans le journal de l'environnement avec Virginie Salmen. Les journées du patrimoine aujourd'hui et demain, plusieurs manifestations hélas annulées à Nice ou Marseille à cause de l'épidémie de coronavirus.
Mais l'Élysée bien ouvert aux visiteurs, ouais. Masqués, armés de gel hydroalcoolique pour découvrir le bureau du président, mais forcément 4 fois moins nombreux, 5 000 ce week-end au lieu de 20 000 l'an passé.
Là, il n'y a personne par rapport à parce que ça a pu être l'an dernier, quoi.
Alors qu'avec la Covid, on pourrait justement se dire qu'on va éviter de fréquenter certains lieux. On s'est dit que s'il y avait bien un endroit aujourd'hui où ça allait être sûr, c'était sûrement à l'Élysée aujourd'hui. On a même presque envie de souhaiter que chaque année, ils organisent de cette manière-là avec des créneaux dédiés, ce qui évite aux Français de faire 4h, 5h, 6h, 7h de queue.
C'est appréciable. Puis bon, c'est tout le monde fait attention, on n'est pas les uns sur les autres. C'est bien.
Le Covid a du bon quand même. Hein, pour le coup, en tout cas.
Voilà, des visiteurs tout de même heureux au micro de Damien Mestre.
Eh bien, dans quelques instants, dans 5 minutes, je reçois la ministre de la Culture qui a passé sa journée aussi à accueillir le public dans son ministère de la rue de Valois. C'est Roselyne Bachelot qui sera avec nous pour témoigner sur Europe 1. Le chanteur Mika se mobilise pour sa ville de Beyrouth.
Avec un grand show ce soir en ligne, I Love Beyrouth, à partir de 21h pour collecter des fonds. Angèle Châtelier.
Le Liban, Mika, y est né et y est resté 1 an et demi. L'explosion à Beyrouth en août dernier l'a profondément touché, ce qu'il confiait dans une vidéo sur sa chaîne YouTube.
Mon cœur se brise quand je pense à tous ces gens qui ont perdu leur maison, leur quotidien et quelqu'un de cher.
Son show, baptisé I Love Beyrouth, est sa manière à lui d'aider. Il a mobilisé des centaines de techniciens, invité des artistes prestigieux comme Laura Pozzini qui a enregistré sa prestation au Colisée à Rome, vidé de visiteurs pour l'occasion. Louane également qui a chanté devant le Sacré-Cœur. Kylie Minogue, Fanny Ardant, et puis il y aura des témoignages, des reportages. Plus qu'un concert en ligne, Mika parle d'une création où il interprétera aussi ses plus grands tubes. Pour y assister, c'est 10 euros. Pour le visionner depuis chez soi, c'est sur YouTube ou grâce à sa box télé. Tous les fonds reviendront à des associations comme Save the Children Liban ou la Croix-Rouge. I Love Beyrouth commencera à 21h.
Voilà, une belle action de Mika, I Love Beyrouth, grand show ce soir à partir de 21h et donc pour collecter des fonds après cette terrible catastrophe dans la capitale libanaise.
Absolument, des fonds collectés, 250 000 euros débloqués notamment par la région Grand Est, il nous en dira davantage Jean Rotner, pour reconstruire des écoles notamment à Beyrouth. Merci Fabienne Lemoyle, on vous retrouve demain midi
avec
pour
plaisir.
La présentation d'Europe Midi. Et voici l'heure de la météo, très compliquée dans le sud.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Baie, produits de fabrication française. Arcade et Baie vous présente la météo.
Et Valérie Darmon, évidemment, on va suivre scrupuleusement, bientôt notre envoyé spécial est sur place dans le Gard, cette situation d'inondation, vigilance rouge pour pluie également, pour crue. 5 autres départements en vigilance orange. Comment la situation va-t-elle évoluer dans les heures à venir? C'est ce qui nous préoccupe, Valérie.
Alors les orages qui vont continuer de bien cogner sur le Gard, l'Hérault et la Lozère dans les heures à venir de manière localisée avec une fin d'épisode Cévenol annoncée par Météo France en milieu de nuit. Mm-hmm. Les vigilances qui ne devraient pas évoluer même si la situation elle est très évolutive. Dans le nord-ouest du Gard où il est tombé à Valrogue, l'équivalent de 3 mois de pluie en 12 heures. Ouf. C'est un phénomène qui arrive en moyenne tous les 50 ans. Alors là, les orages sont toujours intenses, ils sont durables, d'où les crues soudaines et impressionnantes, hein, comme celle du Gardon d'Anduze. Il peut retomber en plus des 500 mm qui sont déjà tombés cet après-midi, une centaine de millimètres supplémentaires d'ici ce soir. Pour les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes en orange, les orages là sont intenses et de courte durée, avec un pic d'événements annoncé à partir de 22h jusque dans la nuit et demain matin seulement pour les Alpes-Maritimes. Donc demain matin, toutes les vigilances devraient être levées.
Très bien, en dehors de cette situation critique du moment dans le sud, on fera le point sur la météo dans le reste de la France dans un petit quart d'heure avec vous Valérie Darmon. Merci. Voici toute l'actualité des sports. Bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
Du cyclisme à la une évidemment avec l'arrivée ce soir de l'avant-dernière étape parce que demain c'est les Champs-Élysées.
Et un contre-la-montre totalement fou, un suspense comme on n'en avait plus connu depuis des années, contre-la-montre avec une ascension pour finir et on va retrouver Axel May en direct de la ligne d'arrivée. Et Axel, au terme d'une étape ahurissante, eh bien le maillot jaune a changé de porteur.
Oui, c'est un Slovène qui remporte le Tour de France, mais ce n'est pas celui que l'on pensait. Primoz Roglic, qui était désigné comme le favori de ce Tour, maillot jaune depuis la 9e étape, s'est effondré dans ce chrono final à la planche des Belles Filles avec 6 derniers kilomètres en montée très sévère. Pogacar, son jeune compatriote, était deuxième du général avec 57 secondes de retard au départ ce matin. Et puis, à l'arrivée de ce contre-la-montre que Pogacar remporte, il est maintenant avec 59 secondes d'avance sur Roglic, sachant que demain c'est une étape juste pour la forme. C'est donc Pogacar à 21 ans, il aura 22 ans dans deux jours, qui remporte ce Tour de France. Incroyable, ça rappelle un peu 1989 lorsque Fignon avait perdu le Tour face à Lemol le dernier jour sur les Champs-Élysées. Pogacar donc qui est le nouveau vainqueur de ce Tour de France. Et image terrible, on a vu, vous savez, Roglic toujours avec son visage impassible, il était tout blanc, crevé, épuisé à l'arrivée, et il vient à l'instant, beau joueur, de serrer dans ses bras Pogacar. Mais quel renversement sur ce Tour de France 2020.
Axel May pour ce final époustouflant.
C'était le point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
À la une des sports également, Simon, le foot, la Ligue 1 continue. En ce moment, c'est Lens qui reçoit Bordeaux.
Lens 7e avant ce match, qui reçoit Bordeaux, 10e du classement. Deux clubs qui sont à peu près dans les mêmes temps de passage. Et Sébastien Boé, Lens pour l'instant fait fort à domicile.
Exactement, 56 minutes de jeu au Stade Bollard et Lens mène 1-0 et c'est largement mérité tant les sang et or dominent pour le moment les débats. Mais quelle erreur de la défense bordelaise sur l'ouverture du score lensoise. Passe en retrait mal assuré de la part de Rémi Houdin, l'attaquant lensois Ganago en profite et inscrit son 3e but de la saison. L'ancien attaquant d'histoire réussit en tout cas ses débuts sous son nouveau maillot. Début de saison également réussi, on va dire, pour Lens qui séduit dans le jeu avec de l'intensité, du rythme et de belles séquences proposées par moment. Et en face, les Bordelais bien, sont assez inquiétants et ne proposent strictement rien dans le jeu. C'est bien parti pour Lens, même s'il reste encore pas mal de temps. 57 minutes et donc Lens qui mène un but à zéro face à Bordeaux.
Sébastien Boé, et puis ce soir, Rennes reçoit Monaco pour un choc entre prétendants au podium. À suivre évidemment autour de Lionel Rousseau d'un Europe 1 Sport.
On va terminer ce journal des sports avec les 24 heures du Mans, la célèbre course auto qui se déroule en septembre, ça c'est inédit encore.
Et oui, d'habitude la course a lieu tout près du solstice d'été, ce qui assure d'avoir un minimum de courses de nuit. Et bien cette année, c'est pas la même chose avec la moitié de la course qui se déroulera de nuit. Le départ a été donné il y a quelques heures et dans la catégorie reine, les Toyota, comme à leur habitude, sont en tête, mais pas aussi dominatrices qu'auparavant. Derrière, juste derrière, et bien il y a les Rébellions, équipe suisse qui les talonne avec notamment le neveu d'Ayrton Senna, Bruno Senna.
Merci Simon Rubin, tout à l'heure 19h10 pour nous informer.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
À la une, les journées du patrimoine avec des consignes sanitaires absolues, mais des Français au rendez-vous. Rosine Bachelot, elle, est à la manœuvre pour accompagner et rassurer le monde du spectacle, de la culture, de la création. Avec quelle stratégie? Eh bien, nous la rejoignons en direct sur Europe 1 dans deux minutes.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h19 et peut-être venez-vous de profiter de cette journée du patrimoine en dehors des villes où l'événement a été annulé pour raisons sanitaires, de Bordeaux à Nice, de Lille à Montpellier, de Saint-Étienne à Ajaccio. À Paris, en revanche, l'opération a été maintenue et vous avez même fait carton plein rue de Valois dans votre ministère de la Culture. Bonsoir Rosine Bachelot.
Bonsoir Wendy Bouchard. Oui, effectivement, carton plein. Enfin, vous
sur
avez,
inscription.
Sur inscription, vous avez très justement dit qu'un certain nombre de manifestations avaient été annulées pour raisons sanitaires, mais sur 17 000 événements habituellement, 13 000 événements ont été maintenus, ce qui est évidemment un succès tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que les gens avaient l'air très heureux. Vous savez, ça m'a frappé en allant à la rencontre des personnes qui étaient là. D'abord parce qu'elles ont visité le magnifique ensemble du Palais Royal dans des conditions optimum. Pas de file d'attente puisqu'il fallait réserver sur internet, des visites guidées avec des conférences expliquant ces lieux qui sont tout à fait magiques, par exemple dans le ministère de la Culture, le salon Jérôme, le salon des maréchaux, le bureau du ministre, le bureau du directeur de cabinet et puis le Conseil d'État, la Comédie Française, le Conseil Constitutionnel, donc un ensemble tout à fait magique, et les gens étaient très heureux. Alors bien sûr, tout le monde avait un masque, les groupes étaient des petits groupes, il y avait du gel hydroalcoolique qui était proposé, enfin qui était fortement obligatoire.
Distribué, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que
les Français,
Covid ou non, Rosine Bachelot, conservent un appétit pour les lieux de pouvoir, c'est manifeste.
C'est pas seulement les lieux de pouvoir, c'est les lieux de patrimoine. Vous savez, quand on interroge les Français, qu'on leur demande « c'est quoi pour vous la culture ?» ils répondent d'abord le patrimoine.
Oui.
Et pas seulement d'ailleurs le patrimoine majestueux des lieux de pouvoir, mais ils sont attachés au patrimoine de leur commune, ce qui en fait le charme, le petit lavoir, une chapelle, une propriété, une jolie propriété qui orne les rues et les routes des villages. Donc cet attachement au patrimoine, il est très fort. Alors bien sûr, vous avez raison, il y a la magie des lieux de pouvoir, surtout qu'en France, les lieux de pouvoir sont dans d'anciens palais de la royauté ou de l'empire et sont effectivement des sites tout à fait remarquables.
Bien sûr, mais l'intérêt pour le patrimoine évident est mis à l'honneur dans toute l'Europe d'ailleurs pendant ces deux jours, Roselyne Bachelot, qui explique aussi que vous aimez compagnonner, en dehors du fait que c'est quelqu'un que vous estimez, avec Stéphane Bern, le monsieur patrimoine. Vous étiez ensemble d'ailleurs et avec le président de la République dans le Gers vendredi pour voir justement comment on reconstruit ensemble ce patrimoine français.
Et oui, Stéphane est un ami formidable. Alors, il fait un boulot extraordinaire. Pourquoi ?
C'est pas un ministre de la Culture bis.
Ah non, 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 il ne voudrait surtout pas, mais pas du tout. Mais si vous voulez, c'est un des animateurs préférés des Français. Donc, vraiment, il pousse la politique du patrimoine. Ensuite, avec ce loto du patrimoine qu'il a imaginé, évidemment, ça n'a rien à voir avec les sommes qui sont développées. L'année dernière, c'est une vingtaine de millions d'euros. Et je pense que ce sera beaucoup plus cette année. On fera les comptes à la fin du loto.
Oui.
Évidemment, ça n'a rien à voir avec les 614 millions du plan de relance ou les 328 millions qui sont directement au crédit du ministère. Mais vous savez, ça mobilise les Français et puis ça a un effet de levier. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, dans la puissance publique, on ne peut intervenir que sur le patrimoine protégé. Patrimoine inscrit, patrimoine classé. Et Stéphane, avec le loto du patrimoine, peut intervenir sur du petit patrimoine qui compte beaucoup dans le cœur des Français. Donc on travaille la main dans la main.
Très bien.
Et il fait du très bon boulot.
Animateur préféré des Français qui est juste avant nous sur Europe 1. Ça tombe bien. Roselyne Bachelot,
ah, voilà.
On ressent votre enthousiasme et il fait du bien, mais il y a cette inquiétude aussi qui est mortifère pour tant de secteurs de l'économie et pour la culture que vous défendez en particulier. Je prends la réaction sur notre antenne du directeur du musée du Louvre hier, le plus visité du monde. Il dit aujourd'hui, on peut quasiment être seul devant la Joconde. Alors on est tranquille, mais un musée vide, dit-il, ce n'est pas la mission d'un musée. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Et quelles sont vos armes face à ça, cette réalité ?
Eh bien, notre arme, c'est le plan de relance, justement, pour permettre au musée du Louvre de préparer l'avenir. Une aide financière tout à fait importante, de plus de 40 millions d'euros ont été apportés à ce phare de la culture française. Ce que nous voulons à travers le plan de France Relance, nous ne voulons pas seulement panser les plaies. Bien sûr, il faut les panser. Mais ce drame qu'a été l'épidémie de Covid, ça a été le révélateur d'un certain nombre de choses. On l'a vu à travers une étude qui paraît tous les 10 ans sur les pratiques culturelles des Français.
Oui.
Les pratiques culturelles des Français changent, en particulier des jeunes, et il faut que nos grandes institutions culturelles se préparent à demain, en tout état de cause. Donc faisant d'une catastrophe une opportunité. C'est pour ça que dans le plan de relance, il y a 400 millions d'euros pour développer la culture numérique, la digitalisation, la réalité virtuelle.
Mais en conservant,
permettre finalement à tout un chacun de s'approprier le patrimoine.
Bien sûr, je prends un autre exemple qui vous tient à cœur aussi, l'Opéra de Paris. Il y a eu des grèves massives, Opéra fermé depuis le mois de janvier. S'ajoute à cela cette crise sanitaire terrible. C'est un gouffre qui ne peut pas vivre continuellement sous perfusion de l'État, sous perfusion financière. Comment il peut se réinventer, l'Opéra de Paris ?
Alors, c'est précisément la raison pour laquelle, d'abord, il faut penser les plaies, je l'ai dit. C'est la raison pour laquelle j'ai donné à l'Opéra de Paris une subvention importante de plus de 60 millions d'euros et puis envisager peut-être la création d'une salle supplémentaire. Nous verrons cela. Mais la mission que j'ai confiée à deux spécialistes, Georges-François Hirsch et Christophe Tardieu, qui sont des fins connaisseurs de l'Opéra, en consultant les organisations syndicales, c'est de préparer l'avenir.
Oui.
C'est de dire comment l'Opéra de Paris Paris affronte les enjeux de demain. C'est-à-dire que il y a des choses qui devront se transformer. Les choses ne pourront plus être comme avant. C'est le sens donc de cette mission et c'est le sens de tout le plan de relance, de cette restructuration. Pas, je répète, pas seulement penser les plaies, mais préparer l'avenir.
Vous les soutenez évidemment, les artistes, ces lieux de culture. Trois fois par semaine, vous sortez vous-même, vous êtes sur le terrain, vous montrez que ce spectacle vivant est pour le moins, à tout le moins, j'allais dire, compatible avec cette économie d'urgence sanitaire. Mais on a Éric Ciotti, par exemple, en face, qui dénonce en même temps sanitaire. Est-ce qu'on peut appeler à participer aux journées du patrimoine malgré la circulation active du virus ? C'est forcément un discours que vous entendez aussi, Roselyne Bachelot.
Oui, je l'entends, mais justement, c'est pour cela que le pays n'est pas à l'arrêt. Il respecte, nous respectons les mesures barrières. Si vous les respectez avec une grande prudence et beaucoup de minutie, c'est les mesures barrières, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique,
mais
le masque,
parfois,
la distanciation. Là, il faut, mais il faut vivre, Wendy Bouchard.
Mais
et
sûr,
la culture est indispensable pour vivre.
Mais il y a parfois deux poids deux mesures. Il y a une auditrice qui nous a écrit tout à l'heure sur Twitter, Marina Anka, qui est écrivain et qui nous dit « Sans salon du livre, c'est compliqué de se faire connaître. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles de distanciation et de capacité au salon du livre que pour d'autres événements ?»
Nous verrons, c'est toujours très difficile dans les manifestations debout pour des raisons logistiques qui sont évidemment éminemment faciles à comprendre. C'est que dans un spectacle assis, vous pouvez réguler les choses d'une manière simple, avec des distanciations entre les personnes isolées, les couples ou les groupes. À partir du moment où on est dans une manifestation où les gens sont debout, il est très difficile d'empêcher, par exemple, une agglutination devant telle vedette de la littérature. Mais nous aidons, bien sûr, le livre. Il y a plus de 50 millions qui sont donnés dans le plan de relance pour aider la filière du livre, et en particulier pour aider un certain nombre de professionnels des salons littéraires.
Plan de relance, fonds de compensation, ça signifie qu'aucun théâtre ne pourra faire faillite grâce à votre soutien, Roselyne Bachelot, par exemple.
Écoutez, d'abord, on peut toujours faire faillite parce que vous ne trouvez pas votre public. Ça arrive. Ou parce que tel ou tel responsable n'aura pas fait le bon choix éditorial, bien entendu. L'épidémie n'a pas arrêté ce genre de questions et de problèmes, mais vraiment, dans à la fois le plan de relance, mais aussi des mesures d'urgence, qui sont hors plan de relance, par exemple un fonds de compensation de 100 millions d'euros qui permet aux salles d'atteindre la zone de rentabilité. Je dis ouvrez, redonnez aux gens le goût d'aller au théâtre. Je suis allé là cette semaine voir au théâtre Rive Gauche Madame Pilinska et le secret de Chopin avec Éric Emmanuel Schmitt. Mais allez-y, vous allez vous régaler et vous allez passer une soirée merveilleuse avec Éric Emmanuel Schmitt sur scène et Nicolas Stavi au piano. Vous sortez, vous vous dites « mais voilà, la vie est là ».
Et on a envie. Et on a envie de retrouver cette vie. Voilà pourquoi les 2 et 3 octobre aussi, Roselyne Bachelot, vous allez encadrer la première édition des États généraux des festivals à Avignon, aussi partout en France. Il est temps de se projeter justement dans la construction d'une autre forme festivalière en France.
Oui, les festivals ont vraiment été durement touchés. Très durement touchés. Et il y a toutes sortes de festivals qui concernent aussi bien des festivals musicaux, de théâtre, des arts du cirque, des arts de la rue. Ils ont été quasiment, à part quelques exceptions, on pense pratiquement à la Roc d'Anthéron, mais pratiquement tous à l'arrêt. Et je veux réfléchir à un nouveau modèle où on va se rencontrer à Avignon, mais aussi dans toutes les directions régionales des affaires culturelles, parce que tout le monde, à cause justement des précautions sanitaires, ne pourra pas venir à Avignon. Et entre professionnels, d'abord, on va se dire les choses. Hein. Comment ça s'est passé, comment les gens ont souffert. Et ça, c'est très important. Et puis, on va réfléchir comment faire des festivals dans le cadre du développement durable avec la nouvelle donne du changement climatique, en assurant la parité homme-femme, la diversité, des nouveaux modèles économiques,
donc, état généraux,
l'accès des publics. Et ça, tout ça, on va y réfléchir.
Vous avez le temps de regarder encore la télévision, Roselyne Bachelot ?
je la regarde moins que je l'ai regardée, je dois dire.
Ou que vous l'avez pratiquée.
Les journées font,
j'imagine.
font 15 à 16 heures.
Mais
oui.
Vous avez forcément suivi le départ d'un élément de notre patrimoine, une personnalité, Jean-Pierre Pernaut, 33 ans d'incarnation, premier journal d'Europe en termes d'audience. C'est une partie de la proximité aussi qui risque de s'en aller avec Jean-Pierre Pernaut, Roselyne Bachelot.
Oh ben Jean-Pierre Pernaut, je l'adore. D'ailleurs, il est juste avant Stéphane Bern, hein, le top 2 des animateurs préférés des Français, c'est donc Jean-Pierre et puis Stéphane. Véritablement, oui, eh ben oui, il a décidé de partir, mais je suis sûr qu'il va être remplacé par quelqu'un ou quelqu'une, plus exactement, qui fera le même travail de proximité qui a fait le succès inégalé de ce 13 heures. C'est la France aussi qu'on veut défendre dans le patrimoine. Souvent, les gens croient que dans les politiques du patrimoine ne sont que pour Paris. Bien sûr, il y a un patrimoine exceptionnel, mais justement, ce que j'ai voulu dans cette politique patrimoniale, et en quelque sorte Jean-Pierre Pernaut fait partie de ce patrimoine, c'est rééquilibrer en faveur de la France, de la France des territoires, de la France des régions. J'ai dit en entrant dans ce ministère rue de Valois que je serais la ministre des artistes et des territoires.
Oui.
Eh bien, c'est ça que je mène.
Eh bien, et beaucoup de sollicitations nous sont parvenues à l'annonce de l'interview sur Europe 1. Alors, je vous permets de me faire le porte-voix des tours qui vous invite début octobre pour les concerts d'automne, parce que la culture aussi se crée, vous le disiez très justement, partout en région. Merci Roselyne Bachelot depuis la rue de Valois.
Merci Wendy Bouchard.
À bientôt.
À bientôt.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Si vous nous rejoignez 18h32, voici l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Des pluies diluviennes dans le Languedoc. Le Gard est en alerte rouge. Une automobiliste est portée disparue après que sa voiture a été emportée par les eaux. Une crue majeure est en cours sur le Gardon d'Anduze. L'Hérault et la Lozère sont pour leur part en vigilance orange. L'épidémie de coronavirus, le directeur général de l'Agence régionale de santé a déclaré sur Europe 1 que 20% des lits en réanimation d'Île-de-France sont occupés par des patients atteints du Covid. Une tension plus forte est attendue dans 15 jours, 3 semaines. Un homme a été la cible de coups de feu hier devant une maternelle de Marseille au moment de la sortie de l'école. L'adjointe au maire, Samia Ghali, réclame un renfort de police dans la cité phocéenne. Donald Trump veut vite remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg. La doyenne de la Cour suprême américaine est décédée à 87 ans. La disparition de cette icône de la gauche devrait donner lieu à une intense bataille politique à moins de 2 mois de la présidentielle. Et puis en Biélorussie, environ 2000 femmes ont manifesté aujourd'hui contre le président Loukachenko. Des centaines de personnes ont été arrêtées.
Merci Sophie Tussaud, que vous retrouvez à 19h pour le journal. Voici le ciel.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Bay, produit de fabrication française. Arcade et Bay vous présente la météo.
Et les trompes d'eau, Valérie Darmon, qui s'abattent sur le sud de la France et notamment le Gard, Valérie.
Et oui, Sophie nous le disait, le Gard en vigilance rouge pour forte pluie et rouge en alerte crue pour le cours d'eau, le Gardon d'Anduze. Il cessera d'y pleuvoir en première partie de nuit. Vigilance orange, pluie, inondation et orage pour l'Hérault et la Lozère. En orange aussi, orage uniquement pour les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var. À l'heure où on se parle, Wendy, jusqu'en première partie de nuit, cet épisode fortement orageux et pluvieux se réactive en touchant cette fois-ci autant les plaines que le relief, notamment l'est de l'Hérault et une large moitié ouest du Gard. En deuxième partie de nuit, les orages les plus forts se décalent en direction des Bouches-du-Rhône. Le Var sera donc le département le plus exposé en milieu de nuit et l'ouest des Alpes-Maritimes en seconde partie. Fin de cet épisode instable demain matin.
Merci Valérie.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Et juste après la pause, le débat des grandes voix au sommaire, notamment laisser les Français vivre d'Emmanuel Macron face au virus, le voile qui s'invite au Sénat et dans le débat public et les coups de cœur, coups de griffe de nos intervenants Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, François Claus.
Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Si vous
les grandes voix.
Voici le débat des grandes voix, toute l'actualité en débat sur Europe 1 avec notre trio ce soir jusqu'à 19h. Laetitia Krupa, journaliste politique, François Close, grand reporter, rédacteur en chef sur Europe 1, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Madame, messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir, Wendy. Laissez les gens vivre, dit en aparté Emmanuel Macron. Mais ce discours est-il encore recevable face à des admissions en réanimation qui augmentent de 48% en une semaine? Olivier Véran reprend ses points quotidiens. Est-ce une bonne chose? On parlera de la 5G contre la lampe à huile. Le débat posé en ces termes a-t-il du sens pour vous? Et nous reviendrons également sur cette étudiante voilée devant la commission d'enquête parlementaire. Nouvelle provocation pour certains élus.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
D'abord, vos coups de cœur et vos coups de griffe pour commencer. Le vôtre, en premier lieu, Laetitia Krupa, il s'agit d'une femme en politique, point d'interrogation.
Oui, alors, si vous me le permettez, Wendy, évidemment, j'ai envie, dans ces coups, de poser des questions. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Pourquoi Marion Maréchal est-elle interviewée alors qu'elle ne représente rien officiellement sur l'échiquier politique et qu'elle répète qu'elle ne sera pas candidate en 2022? Élément de réponse.
Invité Jean-Jacques Bourdin cette semaine.
Exactement. Mmh. Et du Figaro la semaine dernière. Oui. Parce que tout est dans le « officiellement ». Les médias font le pari qu'elle pourrait entrer dans la course à la présidentielle, donc essayent de la sonder, lui demandent de commenter l'actualité politique en filigrane. Dans ces deux interviews, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'elle langue sur la droite de LR, rien de nouveau, et qu'elle a refusé d'être chroniqueuse pour la chaîne LCI parce qu'elle l'aurait lâchée à la première polémique, dit-elle. Ces gens nous approchent pour faire de l'audimat, mais refusent tout pluralisme intellectuel. C'est une censure indirecte. On connaît cette méthode, se servir des médias tout en leur tapant dessus. Alors je reviens à ma question. Pourquoi continuer à inviter Marion Maréchal? Est-ce que cela ne risque pas de rendre crédible et d'alimenter un destin politique qui, pour l'instant, n'existe pas?
Ah, ça revient à la question que vous posez souvent, ce principe que les médias peuvent aussi créer des personnalités, des créatures, voire même parfois.
Oui, parce que c'est une habitude qu'on donne aux Français en répétant que Marion Maréchal pourrait potentiellement être la candidate de la droite de la droite. On l'accrédite, cette hypothèse.
Donc on boycotte la prochaine interview?
Écoutez, je ne suis pas patron de chaîne, mais je dirais oui.
Vous n'êtes pas censeur,
non, mais
Frédéric Dabi.
Ce que dit Laetitia est très intéressant parce que ça rejoint un petit peu mon coup de griffe sur la scénarisation extrême de la prochaine élection présidentielle avec toute une série émanant du microcosme, comme disait Raymond Barre, politico-médiatique, de commentaires, de prédictions. À 18 mois, on entend des certitudes assénées, des affirmations incritiquables sur... ce que sera l'élection présidentielle, Marine Le Pen n'a aucune chance, la droite n'aura pas de candidat et sera battue. Et là encore, la semaine dernière, une interview d'Anne Hidalgo dans Le Point que j'ai lue de manière attentive, la phrase la plus proche d'un début de prolégomène ou de programme
de candidature,
c'est « je prendrai toute ma part dans la bataille qui s'annonce ». Et là, voilà, nous sommes partis. Et tout ça sans prendre en compte l'histoire de l'élection présidentielle, toutes les surprises. Et reprenons la dernière. Un an et demi avant, Emmanuel Macron n'existait absolument pas comme candidat. On était plutôt sur une victoire d'Alain Juppé à la primaire. Mais il y a un véritable emballement. Moi, en tant que sondeur, j'incite à une véritable prudence. Les enquêtes d'intention de vote présidentielle sont intéressantes. Elles ne sont pas prédictives du résultat.
Sûr,
et
oui.
Pour cette élection, et même pour la prochaine, dans six mois, mais tout le monde l'oublie, il y a des élections régionales. L'offre électorale n'est absolument pas connue, donc on a eu Marine Le Pen qui ne serait pas candidate. Et là encore, récemment, la couverture du Point, Anne Hidalgo. Et si c'était elle, même si objectivement, Anne Hidalgo coche des cases, si je puis dire, femme, sociale, écologie, dynamique de victoire, union de la gauche, et que c'est vrai qu'à la gauche du président Macron, il y a maintenant un espace électoral béant que personne n'incarne.
Oui. Et puis ses amis quand même l'entourent et l'incitent, hein. Jean-Luc Romero par exemple, qui appuie sa candidature.
Vous oubliez juste un détail qui me semble pour moi fondamental, c'est son impopularité. Enfin, on a complètement oublié qu'Anne Hidalgo était impopulaire dans l'opinion publique.
La populaire, mais réélue à Paris.
Ma chère Laetitia, la popularité ne fait pas l'élection, sinon nous aurions eu à l'Élysée Bernard Kouchner, Simone Veil, Jack Lang. Anne Hidalgo, moi je m'intéresse qu'aux élections, elle a largement reporté les élections du 15 mars et du 28 juin.
Parce que LREM a complètement saboté sa campagne.
Il y a beaucoup de choses à dire.
C'est une femme que vous mettez à la une, décidément, avec votre coup de cœur, François Close.
Exactement,
ce soir.
Et elle est bien réelle, puisqu'elle est en poste. Alors si je vous dis Ursula von der Leyen, vous me direz c'est peut-être un peu austère. Si je vous dis la thématique l'Europe, encore plus austère. Et pourtant, mes amis, quand même, quel beau discours nous avons eu cette semaine. Et je regrette que dans les médias français, on ne l'ait pas plus cité, ce grand discours. discours sur l'Union. On sait comment c'est important aux États-Unis si ça le devenait également, l'état de l'Union européenne, avec quelques grands principes très simples qui pourraient peut-être demain redonner un nouveau souffle à l'Europe. La fin de l'unanimité, notamment sur le positionnement géopolitique, qui aujourd'hui paralyse totalement l'Europe, l'empêche de s'exprimer clairement sur la Biélorussie ou sur la Turquie. La remise en cause de ce fameux principe de Dublin sur les migrations, vous savez, la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile d'un réfugié par le pays qui l'accueille, qui a mis à genoux l'Italie, qui met à genoux Malte ou la Grèce. Il faudrait enfin plus de solidarité, très beau principe que de le remettre enfin en cause. Et puis le Green Deal, 750 milliards de dettes qui seront en partie financées par une nouvelle taxe verte, sans oublier l'intransigeance sur la défense du terreau démocratique, la défense des minorités qui a été formulée avec beaucoup de conviction. Bref, on a envie d'y croire à cette Europe-là et on aura besoin de l'Europe demain. J'ai envie de dire que depuis la poignée de main Mitterrand-Kohl, il n'y avait peut-être pas eu ce souffle. Ce sont des mots pour le moment, mais avec la présidence allemande dans les 6 mois qui viennent, nous aurons peut-être des actes.
Ouais, discours que vous relayez dans votre coup de cœur ce soir, François Claus. Est-ce que vous me permettez de reparler, parce que nous l'avons déjà fait un petit peu dans le journal, d'une femme d'exception, celle qui fut saluée ainsi ce matin par Emmanuel Macron, surnommée RBG aux États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, doyenne de la Cour suprême américaine. Alors, les Français la connaissent peut-être mal, cette femme qui est une icône, pour la défense de l'égalité femmes.
Elle a eu droit même... Vous imaginez un juge en France qui aurait des t-shirts à son effigie. Vous imaginez une émission avec elle.
Là, vous poussez le bouchon, c'est pas comparable. Les juges de la Cour suprême,
c'est pour montrer quel symbole elle a été pour les femmes, parce que bien avant MeToo, dans les années 70, elle avait su se battre et poser le débat, et qu'elle en est devenue le porte-parole, et que l'Amérique perd une très grande voix de la défense du combat des femmes aujourd'hui.
Frédéric David.
Avec en plus une controverse politique à 7 semaines de l'élection présidentielle américaine, très clairement, elle aurait souhaité que Donald Trump, que son remplaçant ou sa remplaçante ne soit pas nommée ou soit nommée par un prochain président. Et tout de suite, on a entendu Donald Trump vouloir la remplacer, car c'est un enjeu politique. Si le scrutin est extrêmement serré, on ne sait pas ce qui peut se passer. On se souvient du précédent récent, il peut y avoir une bataille juridique très très forte autour de la Cour suprême au lendemain, et même une sorte de deuxième tour, si je puis dire, de l'élection présidentielle américaine.
Frédéric Dabi, Laetitia Krupa, François Claus, nos grandes voix en débat jusqu'à 19h. Comment informer à bon escient sur le Covid et quel discours suivre aujourd'hui? Le laisser faire, le laisser vivre tout en étant extrêmement scrupuleux, ou le discours davantage de fermeté et de rigueur prôné par Olivier Véran, absent ces dernières semaines de la scène médiatique? Il revient avec ses points quotidiens et on vous attend sur le sujet.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Jusqu'à 19h, elles sont là, nos grandes voix du week-end. Laetitia Krupa, François Claus, Frédéric Dabi, parlons du Covid, de la gestion de crise. À 19h15, je serai avec le président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui nous fera part aussi de son retour d'expérience de manière très pragmatique. Il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent, comme André Comte-Sponville, pour dire vraiment qu'il est devenu insupportable d'entendre, de lire le décompte des cas recensés au quotidien. Mais que disent les études quand vous sondez les Français, avec l'IFOP notamment, Frédéric Dabi, est-ce que l'inquiétude sanitaire reste la préoccupation principale du moment?
Alors, elle reste bien sûr haute, hein, même si on a vu qu'il y avait d'autres priorités pour les Français, l'insécurité, la délinquance. Ce qui est intéressant depuis une dizaine de jours, c'est un reflux de cette inquiétude sanitaire qui reste majoritaire, mais qui se retrouve au niveau, à l'étiage qu'il était au moment du déconfinement, quand le déconfinement paraissait réussi et qu'on était sur une logique, si je puis dire, août 1944, c'est-à-dire le 11 mai, on revient à la vie normale. Ce qui ne change pas, Wendy, c'est que l'inquiétude économique, le sentiment qu'une crise terrible arrive, on a des mauvaises nouvelles jour après jour, est complètement intériorisée et massive dans le discours des Français. Là, c'est vrai qu'il y a dans l'inflexion, ce qui paraît être une inflexion présidentielle, le fait qu'il n'ait pas suivi à la lettre, le moins qu'on puisse dire, les injonctions du Conseil scientifique, c'est un équilibre, un dosage à trouver entre contraintes, serrage de vis et responsabilité individuelle dans un contexte où les Français respectent de mieux en mieux les gestes barrières. Et il y a peut-être, je dirais ici, une sorte de parenthèse pour d'une bonne opportunité. D'une part, les Français ont pleinement intériorisé qu'il faudra vivre longtemps avec le virus. Il y a un rejet et une crainte absolument fantasmatique d'un reconfinement généralisé. C'est pour ça que la décision, l'annonce de Olivier Véran ou son souhait de peut-être fermer des bars, etc., c'était peut-être vu pour les Français comme une étape vers un reconfinement. Et puis, dire qu'il faut déléguer au local, que les solutions doivent être pragmatique s'inscrit en adéquation complète avec ce que veulent les Français. Une des leçons majeures de la crise, c'est cette faillite entre guillemets de l'État central et l'idée que le local, plus agile, plus pragmatique, a su mieux gérer.
Donc laisser faire le préfet des Bouches-du-Rhône et pas Olivier Véran, François Claus, par
la
exemple,
là,
sa
comme
décision.
A dit tout à l'heure, oui. Rosine Bachelot.
Oui, c'est ça.
Collé à la réalité du terrain, effectivement, c'est ce qu'on veut, mais ça génère également énormément de confusion. On l'a vu dans la bataille entre Marseille et Paris il y a quelques semaines. Moi, j'ai quand même le sentiment, contrairement au paysage finalement assez rose que nous dresse Frédéric Dabi, il a des chiffres que je n'ai pas. Moi, j'ai quand même le sentiment d'une énorme confusion, un sentiment de à qui faire confiance et qu'on ne peut plus faire confiance à personne, ni au politique, si c'est pas le ministre, c'est le préfet, qu'on ne fait plus confiance aux scientifiques. Entre un médecin de Marseille et un médecin de Paris, on ne nous dit plus la même chose. Et j'ai l'impression qu'il y a une perte de repères qui est à terme extrêmement dangereuse, parce que la perte de confiance dans les décideurs, elle était là bien avant le Covid. Et j'ai le sentiment que la situation du moment exacerbe ce sentiment-là chez
les
Français.
Tout à fait. D'ailleurs, on avait cette perte de confiance face à la pénurie des masques première vague. On a aujourd'hui la lenteur de l'arrivée des résultats de tests en laboratoire qui peut nourrir aussi cette défiance, Laetitia Krupa, des Français vis-à-vis de l'encadrement sanitaire de ce problème.
Le problème, c'est que en fait, il y a une défiance envers le politique. Ça, bien sûr, François, vous avez raison, hein, c'est pas nouveau. Mais il y a une défiance envers toute personne qui représente l'autorité, quelle qu'elle soit, parce que la parole aujourd'hui du scientifique est aussi remise en question. Non. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs mois, il y a un écho médiatique, encore une fois, hein, excusez-moi de mon obsession, mais de la parole plurielle du scientifique, et plurielle et contradictoire. Alors moi, je vous mets au défi, Wendy, de croire plutôt le docteur X que vous avez entendu hier, à défaut, et plus que le docteur Z que vous avez entendu ce matin.
Oui, pourquoi
même
on retire la confiance que j'ai pu avoir en Olivier Véran, qui nous faisait des points circonstanciés depuis 7 mois, qu'on le fait disparaître du devant de la scène, ça crée quand même une sacrée confusion dans l'esprit des Français.
Oui, parce que la politique s'en est mêlée à un moment donné, vouloir annoncer, regardez, on fait 1 200 000 tests, c'est même au-delà des objectifs, ça ne veut strictement rien dire. Il y a un moment donné où il faut une doctrine qui soit peut-être dictée par des scientifiques et puis incarnée par des politiques. On a l'impression depuis le début, ça a été le cas sur les masques, c'est le cas sur les tests qui ne servaient à rien, et puis après il faut tester tout le monde, et maintenant il faut prioriser les tests, que cette absence de doctrine, eh bien elle est patente. La faute à qui ? Aux scientifiques ou aux politiques ? J'aurais tendance à dire aux politiques.
Frédéric ?
Non, je ne serais pas aussi sévère que François Claus. Je pense que les Français préfèrent que le politique reprenne le lead plutôt qu'être fait baloter, comme le disait Laetitia Krupa, par des avis scientifiques divergents. Il ne faut pas mettre de côté le côté éruptif du pays. L'opinion publique inquiète, qui est toujours confrontée au virus. Alors, ce qui a des effets peut-être positifs pour le politique, ça relègue de côté des craintes en matière économique, notamment, même si elles sont là. L'optimisme des Français pour l'avenir en cette rentrée est un des plus hauts jamais enregistré depuis très longtemps. Ça paraît contradictoire. Mmh. C'est que les Français vivent avec le virus, et je pense que Emmanuel Macron
mal,
a plutôt raison de ce point de vue-là, de ne pas imposer un nouveau tour de vis, même si c'est vrai que le baromètre et les Français suivront les points quotidiens de Olivier Véran, qui garde une cote satisfaisante. Ça sera peut-être une explosion, mais on entend là aussi des avis très très contradictoires du nombre de personnes en réanimation et de personnes décédées.
Mmh. Wendy Bouchard, les grandes voix.
En débat jusqu'à 19h, progrès, vous avez dit progrès, chers amis, 5G. Bien sûr, le sujet, Emmanuel Macron a adressé à tous les réfractaires de la technologie une formule comme il en a l'habitude.
Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Les Amish, décidément, ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron s'en prend à cette communauté de religieux américains. François Claus, en 2017, sur notre
antenne. Moi, je suis lecteur de Lucky Luke, alors je connais bien les Amish.
2016, il me semble.
2016, pardon. Oui,
2016,
campagne.
Pendant la campagne.
Laetitia Krupa.
Oui, 2016, pendant
qu'est-ce
la campagne.
Qu'est-ce qu'il a contre les Amish, cette arrogance anti-Amish?
Souvenir d'un film extraordinaire qui s'appelait Witness, avec Harrison Ford, en 85-86. Oui. C'était dans une communauté Amish qui faisait preuve au contraire de sobriété, certes, mais d'une très forte solidarité entre ces membres.
En tout cas, ce qui est génial avec votre question, Wendy, c'est que vous vous focalisez sur effectivement le problème de ce genre de punchline. Pourquoi ? Parce qu'elle kidnappe complètement le débat. Vous êtes en train de vous demander pourquoi il s'acharne contre ses amiches et en filigrane, pourquoi le président est-il aussi méprisant ? Or, la question, c'est est-ce qu'il a raison ou pas ? Est-ce que la 5G a des effets sanitaires néfastes sur la santé,
on est
sur
pas
le
de
climat
lire
est-ce qu'il faut un moratoire ? En fait, c'est ça le problème. Et là, on est en train de s'étriper entre commentateurs sur Amish, notre Amish.
Oui, mais
et finalement, on ne pose pas les vraies questions.
Moi, je pense qu'il a eu tort de... Il a eu tort, Wendy, il a complètement clivé le débat.
C'est ça, grosso, ce que j'allais vous dire.
C'est grosso modo, voilà, la 5G, c'est comme ça. Et si vous êtes contre, eh ben, retournez avec vos carrioles. Mais on peut être pour la 5G, mais aussi se dire qu'il faut peut-être verrouiller mieux sécuritairement face à la menace chinoise. On peut être contre la 5G pour des raisons de santé, mais se dire que peut-être avec un débat, et là en redonnant la parole à de vraies études, on pourrait demain être convaincu. Non, là c'est fermer le banc, c'est comme ça et pas autrement. Mmh. Et je pense qu'il retombe dans cette arrogance qui lui fait vraiment défaut et qui lui colle à la peau.
Oui, un combat binaire et l'outrance toujours.
Oui, c'est vrai que la cannibalisation du débat par cette punchline dont parlait Laetitia est réelle. Et quand on interroge les Français, ils sont plutôt... équilibré, une enquête qu'on vient de publier pour le site Lemon montre qu'une majorité de Français, 63%, dont une majorité de sympathisants à l'époque GVR, pensent que les pouvoirs publics doivent faciliter le déploiement de la 5G, mais ça n'empêche pas des craintes, parce que sur cette question, il y a des craintes liées à la vie privée, des craintes environnementales, des craintes liées à la santé, et c'est vrai que le lien santé-environnement est extrêmement fort, ce qui amène presque un Français sur deux à souhaiter un moratoire sur la 5G. Donc le débat n'est commence, il y a des questions de connaissances bien sûr, idéalement il faudrait faire sur cette question une conférence citoyenne, sachant que la convention climat c'était, je crois, prononcée
pour
un moratoire. Mais avec un moratoire.
Ça me paraît d'autant plus injuste que peut-être, et c'est l'un des effets positifs, s'il faut en trouver à la pandémie qu'on traverse, on n'a jamais été autant dans le questionnement sur pourquoi aller toujours plus vite, pourquoi aller loin aujourd'hui. Donc on peut légitimement poser cette question-là que le président de la République refuse de poser.
Ah, vous êtes réactionnaire, François.
Oui, je suis amiche. J'y retourne.
Non, juste un petit point très factuel. Le 29 juin, quand Emmanuel Macron a fait son discours suite à la Convention citoyenne sur le climat, il a mis comme ça 2-3 points en disant « sur ça, on n'ira pas ». Mais il n'a pas du tout parlé du moratoire et de la 5G. Ouais. Donc, sous-entendu, il était d'accord avec la proposition des citoyens ce jour-là.
C'est ça. Mais alors le problème, est-ce qu'on doit lire entre les lignes et considérer que, manifestement, entre Dupond-Moretti qui parle d'ayatollah vert, ses amiches qui reviennent dans le débat régulièrement, les verts sont aujourd'hui les hommes et les femmes à abattre très clairement. Alors, et là, pour le coup, la campagne est lancée.
Oui, au-delà de la 5G, il y a aussi un contexte où des prises de position de maires verts récemment élus ont plutôt été rejetées par les Français. Du sapin de Noël mort de Pierre Rumic au propos
France,
sur le Tour
Macho.
De France avec un élu de Paris qui a remis une pièce, si je puis dire, en parlant d'opium du peuple face à des champions hyper dopés, ce qui n'est absolument pas le regard des Français. Moi, cette délégitimation des premières prises de position des Verts rappelle ce qu'on avait vu en 1995, alors toute proportion étant égale, où quand le FN avait gagné de très nombreuses villes dans le Sud, notamment Toulon, des décisions assez iconoclastes et très contestables des maires FN avaient fini par décrédibiliser ce parti et amener la scission de Bruno Maigret à suivre du côté des Verts.
Laetitia ?
En tout cas, c'est sûr qu'il y a un calcul politique dans ces punchlines, dans ces amiches-là et dans cette façon de polariser le débat. En gros, qu'est-ce que nous dit Emmanuel Macron ? Il cornérise les maires écolos, vous avez raison, et leur proposition loufoque et impopulaire. Et il veut incarner l'écologie moderne. Il ne met pas complètement l'écologie de côté, pas du tout. Lui se présente en candidat potentiel pour 2022, incluant l'écologie dans son programme.
Alors, pour rajouter de la culture, de l'intelligence, il fait du Trump quand même, à certains égards, pour vous, François Claus ?
Du Trump intelligent, un peu plus intelligent peut-être, oui,
du Trump
mais y a de ça, et malheureusement aujourd'hui, qui ne fait plus de la politique comme ça ? Ceux qui en font autrement, on ne les entend plus, on ne les voit plus, j'en parlais dans mon coup de cœur là, en évoquant le livre la semaine dernière d'Alice
Zéliter,
comme un empire dans un empire, mais on est exactement dans cette logique-là. Je ne suis pas sûr, et là Frédéric Dabi est peut-être mieux placé que moi pour le dire, que du côté français on cède aussi facilement à ces punchlines. Je pense que ça peut être à double tranchant.
Bah oui, parce que ça fait une sorte de ministère de la parole alors que les Français attendent des actes. Et n'oublions pas que ce sont sur les questions environnementales, sur ces seules questions, que l'action d'Emmanuel Macron est perçue en termes d'inaction et d'absence de résultats.
Et voilà, CQFD, Frédéric Dabi de l'IFOP. Merci cher Frédéric, merci. À samedi prochain. Laetitia Krupa, François Coche, je vous donne rendez-vous demain.
À demain.
Compagnie Philippe Moreau-Chevrolet. Merci pour ce débat des grandes voix qui nous accompagne donc chaque samedi, chaque dimanche jusqu'à 19h.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
C'est l'heure du journal puisque nous retrouvons Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
19h au carillon d'Europe 1, merci de votre écoute, merci de votre fidélité.
Ben là c'est catastrophique, hein. J'ai jamais vu ça. On dirait qu'il y a eu un cataclysme, tout a été détruit, on n'a plus d'électricité parce que les lignes ont été emportées.
Le Gard sous les eaux, de violentes pluies s'abattent sur le département qui est placé en vigilance rouge. Une femme est portée disparue ce soir.
Bientôt des tests salivaires en France pour dépister les malades du Covid. Une alternative malgré le scepticisme des professionnels de santé.
La disparition de Ruth Bader Ginsburg, doyenne de la Cour suprême américaine et figure de la lutte féministe. Beaucoup d'hommages pour saluer ses combats, y compris en France.
Et puis les journées du patrimoine, l'occasion de découvrir des lieux habituellement fermés au public. On vous emmène dans la Sarthe ce soir à la découverte d'une école qui n'a pas bougé depuis le 19e siècle. On est ensemble jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais avant de développer tous ces titres, prenons la direction de la Slovénie. La Slovénie qui brille dans le Tour de France qui s'achève demain sur les Champs-Élysées.
Oui, Théo Manval, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. On assistait aujourd'hui à un renversement incroyable lors du contre-la-montre. Tadej Pogacar a réduit l'écart avec son compatriote Primoz Roglic et s'est emparé du maillot jaune. Et à la veille de l'arrivée à Paris, c'est tout simplement la folie en Slovénie.
Ah oui, vous l'entendez derrière moi, ça a été l'explosion de joie tout à l'heure à la fin du contre-la-montre. Drapeau, sirène et même fumigène ici, une ambiance incroyable tout l'après-midi. À la hauteur en fait de la performance irréelle de Tadej Pogacar qui a renversé en 37 km la minute de retard qu'il avait sur son compatriote Roglic. Qu'importe l'ordre, il y aura donc bien deux Slovènes demain sur les deux plus hautes marches du podium à Paris. C'est désormais une certitude et Claudie n'en revient presque pas.
C'est incroyable, sensationnel ce qu'ils viennent de faire. Je suis tellement fier des deux. J'en ai la chair de poule. Pogacar, on aurait dit qu'il volait sur la route. Juste félicitations à ces deux-là. Ils sont incroyables. Ce sont les maîtres du monde à vélo.
Alors je vous cache pas qu'ici à Kizovets où je me trouve, le berceau de Primoz Roglic, il y a eu un petit coup de froid hein, quand même à mesure qu'on voyait la situation se renverser. Mais beau jeu, Tsené, compagnon de route de longue date de Primoz Roglic, débouchera quand même le champagne.
Merci.
On est un peu déçus, c'est sûr, mais le maillot reste en Slovénie. On est content que Pogacar ait montré tout son talent. On est très fiers, c'est un événement historique.
Et tous seront devant la télé demain, Sophie, demain, même heure, pour entendre pour la toute première fois l'hymne slovène résonner sur les Champs-Élysées.
C'est la dynamo, ça, derrière.
C'est la sirène des pompiers locaux qui a été ramenée pour faire l'ambiance tout l'après-midi. Ah, je ne vous cache pas que j'ai perdu un petit peu d'audition.
J'entends, ben aussi, merci.
Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie.
L'actualité de ce samedi soir, c'est également la situation dans le Gard. Des trombes d'eau s'abattent depuis ce matin.
Oui, le département est en alerte rouge. Une crue majeure est en cours sur le Gardon d'Anduze. Les images qui circulent sont impressionnantes. Et ce soir, Nicolas Feldman, une femme est portée disparue.
Ah oui, il s'agit d'une infirmière emportée par les eaux, volant de sa voiture. Cela s'est passé cet après-midi à Saint-André de Magencoul. Alors pour la retrouver, un hélicoptère est sur place, mais avec cette pluie qui continue de tomber, eh bien difficile de survoler la zone. En 2 heures, il est tombé sur la ville 500 mm d'eau. Le maire Christophe Boisson ne reconnaît plus sa commune.
Là, c'est catastrophique. Hein. J'ai jamais vu ça. Toutes les routes se sont endommagées. On dirait qu'il y a eu un cataclysme. Tout a été détruit. On n'a plus d'électricité parce que les lignes ont été emportées. Les routes sont défoncées de partout. Et on attend que ça se passe.
Mais après une petite accalmie, eh bien, le plus dur reste à venir. Météo France parle d'un épisode pluvio-orageux au plus fort ce soir. Il devrait durer jusqu'au milieu de la nuit et concerner tout le département. Le commandant des pompiers du Gard, Éric Agrigné, appelle à la prudence.
Nous attendons pour la fin d'après-midi et la soirée, à minima, 200 mm de plus, c'est ce que nous annoncent les services de Météo France. Donc la meilleure des choses, c'est de rester chez soi. Pour les gens qui sont encore sur la route, un système de déviation très important a été mis en place par les services. Et bien sûr, respecter les consignes édictées par la préfecture du Gard.
Et déjà, une quarantaine d'opérations de sauvetage ont été menées par les pompiers et près de 400 personnes mises à l'abri.
Merci Nicolas Feldman. Et les départements voisins du Gard, l'Hérault, la Lozère sont en vigilance orange, ainsi que les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Également à la une de l'actualité, la pandémie de coronavirus, la situation sanitaire se dégrade de jour en jour. Hier, plus de 13 000 nouveaux cas de contamination ont été détectés, un record en France. Sur Europe 1 ce matin, le directeur général de l'Agence régionale de santé a déclaré que 20% des lits en réanimation d'Île-de-France étaient occupés par des patients atteints du Covid. Une forte tension est également attendue dans 15 jours, 3 semaines.
Les tests salivaires, eux, seront autorisés prochainement en France. La Haute Autorité de Santé a donné hier son accord. C'est un moyen de diminuer, Damien Mestre, les files d'attente, même si, pour le coup, les professionnels sont sceptiques.
Ouais, il y avait encore beaucoup de monde aujourd'hui dans les centres de dépistage temporaires installés à Paris par la mairie. Des files d'attente de plus d'une heure et des files d'attente qui ne vont pas forcément diminuer avec les tests salivaires. C'est en tout cas l'avis de Maxime Wong qui a passé l'après-midi à coordonner les opérations dans l'un des barnums de la capitale.
J'espère que ce sera plus simple et plus rapide, mais en fait le prélèvement en lui-même il est assez rapide. C'est tout ce qui est papier, la gestion des flux, tout ça, ça prend du temps. Mais le geste en lui-même il est rapide.
Réaliser un PCR ou un test salivaire, ça prend donc grosso modo le même temps. Le seul avantage du test salivaire, c'est qu'on peut le faire chez soi et gagner donc peut-être à la marge effectivement un peu de temps, explique Morgane Moulis, coprésidente du syndicat des jeunes biologistes médicaux.
C'est récupéré dans un petit flacon quelques millilitres de salive, donc soit entre guillemets les gens vont cracher dedans, soit à l'aide de petites pipettes. Voilà, directement dans la bouche, ils pourront réaliser le prélèvement chez eux et directement l'amener au laboratoire.
Un gain de temps à la marge, donc dans tous les cas, pour le délai d'analyse, c'est la même chose, PCR ou salivaire, cela prendra autant de temps avant d'avoir les résultats.
Damien Mestre.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
La suite du journal dans un instant et nous revenons sur la disparition de la doyenne de la Cour suprême des États-Unis, sur le rôle et l'influence de cette femme. Et puis nous irons voir comment se déroulent les journées du patrimoine dans la Sarthe. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et Sophie Tussaud pour vous informer, 19h08 sur Europe 1. À la une aux États-Unis, la disparition de Ruth Bader Ginsburg qui risque de tendre davantage la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du mois de novembre. La doyenne de la Cour suprême est décidée à 87 ans, Sophie.
Donald Trump a annoncé qu'il allait nommer sans délai un nouveau juge alors que les démocrates lui demandent de ne pas exercer ce pouvoir avant l'élection. Ruth Bader Ginsburg était une juge progressiste qui avait fait de la lutte pour la cause des femmes le combat de sa vie. Avant la Cour suprême, elle avait été la juriste de l'équivalent de la Ligue des droits de l'homme américaine. Elle s'est battue pour le droit à l'avortement ou encore le mariage homosexuel. Je vous propose d'écouter d'ailleurs la réaction de Ruth Bader Ginsburg sur le mouvement MeToo.
Depuis si longtemps, les femmes étaient silencieuses, pensant qu'elles ne pouvaient rien y faire. Mais maintenant, la loi est du côté des femmes et des hommes victimes de harcèlement. Et c'est une bonne chose. Moi, tant que je pourrai faire mon boulot à fond, je le ferai.
Elle était, Ruth Bader Ginsburg, une icône pour les féministes du monde entier qui ont beaucoup réagi sur les réseaux sociaux, en particulier aujourd'hui. En France, la Fondation des Femmes a été partenaire d'un documentaire sorti il y a 2 ans, consacré à la vie de cette femme. Anne-Cécile Maillefer est la présidente de la Fondation et nous en parle.
C'était un rempart à Donald Trump et aux idées conservatrices. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement inspirant aussi de voir comment cette vieille dame, toute petite, toute frêle, pouvait à elle toute seule finalement faire barrage et préserver les droits pour toutes les femmes aux États-Unis, le droit à l'IVG en particulier. Et les droits des femmes aux États-Unis et les droits des femmes en France sont quand même assez liés.
Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes avec Marion Gauthier pour Europe 1. C'est ce week-end les journées du patrimoine dans un contexte particulier cette année en raison du coronavirus. Les manifestations ont même été annulées dans plusieurs grandes villes. Dans la Sarthe, en revanche, ces journées sont placées sous le signe de l'éducation. Agré, un village de 400 habitants, c'est l'occasion de retrouver les pupitres d'école tels qu'ils étaient sous Napoléon III. Charles Guyard a effectué cette plongée dans le passé pour Europe 1.
Annie pousse la porte et nous y voilà, l'école figée dans le temps. Ce temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, les moins de 30, de 50 ans non plus et pour cause.
Là, la classe est telle qu'elle était dans les années 30.
En 1936, elle est là, assise au deuxième pupitre, rangée du milieu à quelques mètres d'un certain Roger. Roger, qui deviendra son époux. À bientôt 97 ans, Madeleine n'a rien oublié de cette époque, y compris sa première poésie.
C'était le pinson et la pie.
De la rue, on entend la cloche de l'église qui rythme alors les journées. À midi, la cantinière, en fait la patronne du bistrot d'à côté, prépare les repas, sauf pour ceux qui amènent leur casse-croûte et les réchauffent directement sur le poêle de la classe.
Quand il y avait le poêle qui marchait, s'il y avait de la fumée, ça n'arrangeait pas l'ensemble. Quoi.
Sur les murs, parfois noircis, donc, les fameuses cartes Vidal Lablache. Ici, l'Indochine française, là, l'Empire des Indes. Et entre deux leçons, on apprend aussi le solfège sur un vieux clavier. Si plus de 50 écoliers pouvaient s'entasser ici, des mesures barrières étaient déjà en vigueur.
Tous les ans, la classe devait être blanchie à la chaux pour désinfecter.
Et puisque la mairie était à l'étage, les futurs mariés devaient traverser la classe en tenue de cérémonie pour aller signer les registres. Un autre temps, l'école a fermé en 1983, mais aujourd'hui encore, on y apprend beaucoup. Le Gré, Charles Guyard, Europe 1.
Et je vous rappelle que Roselyne Bachelot était notre invitée tout à l'heure. Elle nous disait de faire d'une catastrophe une opportunité. C'était son souhait, Roselyne Bachelot, qui veut notamment que les grandes institutions culturelles se préparent à demain en s'adaptant aux pratiques culturelles qui changent, en développant notamment la culture numérique, la réalité virtuelle également. Merci Sophie Tussaud.
À
tout à l'heure, 19h30.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Baie, produit de fabrication française. Arcade et Baie vous présente la météo.
Avec Valérie Darmon qui suit cet épisode météo très instable, très violent dans le sud de la France. Je vous rappelle que le Gard est en vigilance rouge pour pluie, inondation. Un épisode cévenol qui se poursuit, Valérie, jusqu'en milieu de nuit.
Absolument Wendy, moment auquel la vigilance rouge, hein, forte pluie pour le Gard, sera sans doute levée. L'épisode cévenol localisé mais très intense prendra fin à ce moment-là. En revanche, la vigie crue sera sans doute maintenue pour de nombreux cours d'eau qui ont subi des crues éclairs, on le sait, entraînant de graves inondations. Les cumuls de pluie sont d'ores et déjà exceptionnels, d'ordre cinquantenal à Valrogue dans le Gard où il est tombé en 12 heures, l'équivalent de 3 mois de pluie. Alors ce soir, l'activité pluie-orageuse se maintient, de gros orages locaux stationnaires peuvent encore survenir localement dans l'Hérault, en Lozère, dans le Gard, en vigilance orange, puis inondation orage pour l'Hérault et la Lozère bien sûr. Et puis dans la nuit, les très fortes averses orageuses vont balayer les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, placées en orange également. Et c'est seulement demain matin, en toute fin de nuit, que les précipitations vont faiblir.
Merci Valérie Darmon, on vous retrouve à 19h30. L'actu des sports, et pour commencer ce tremblement de terre, rien que ça Simon Rubin, sur le Tour de France, c'est vrai.
Et oui, Primoz Roglic était leader avant le départ de ce contre-la-montre avant-dernière étape avec près d'une minute d'avance et il est ce soir deuxième avec une minute de retard. La faute à Tadej Pogacar, 21 ans, héros inattendu de ce tour avec un contre-la-montre dominé, un exploit pour l'histoire. On va entendre sa voix à Pogacar.
Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quand je vais réaliser, mais je suis tellement fier de l'équipe. C'était un effort tellement énorme. Avoir le maillot jaune sur le final du tour, c'est un rêve. On en rêvait depuis le départ et on l'a fait. Incroyable.
Tadej Pogacar au micro de Marguerite Lefebvre. Il remporte donc le maillot jaune, mais aussi le maillot blanc de meilleur jeune et le maillot à poids de meilleur grimpeur.
C'était le point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Et il y a du foot évidemment au programme pour la Ligue 1. Eh bien ça y est, Lens a battu Bordeaux.
Et Sébastien Bouet, vous avez assisté à ce match, on peut le dire, une victoire méritée, 2-1 pour Lens.
Troisième victoire consécutive pour le promu Lensois qui frappe fort dans ce début de saison. Victoire face au PSG la semaine dernière, puis à Lorient et succès cet après-midi 2-1 face à une équipe de Bordeaux qui avant cette rencontre n'avait pas encaissé le moindre but. Les buts justement, Ganago ouvert le score à la 47e minute. C'est déjà la troisième réalisation sous le maillot Lensois pour l'ancien Niçois. Et puis le deuxième but sur pénalty est signé Kakuta à la 59e. Bordeaux a réduit l'écart dans le temps additionnel par Samuel Kalou. Après 5 ans passés en Ligue 2, les 100 et or font un retour remarqué parmi l'élite.
Sébastien Bouet à Lens.
Et puis l'affiche ce soir, 21h, c'est Rennes-Monaco. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Très beau programme ce soir encore, dites-nous tout.
La rencontre bien sûr, mais un invité exceptionnel ce soir, Jean-Michel Roussier, le directeur délégué de Téléfoot, la chaîne Mediapro, qui vient d'ailleurs d'être assigné par Canal+, pour des raisons de droit du foot, d'attribution et de distribution. Il y a une véritable polémique autour de ce dossier et évidemment on l'interrogera. On lui demandera aussi comment la chaîne a travaillé pour essayer de savoir si vraiment il y a eu des insultes racistes contre Neymar lors du fameux classique. Et c'est intéressant d'avoir Jean-Michel Roussier qui a beaucoup de recul là-dessus et qui a aussi été le président de l'Olympique de Marseille. C'est à partir de 20h.
Merci. Europe 1 Sport, Lionel Rousseau. On termine, Simon, avec du rugby, la Coupe d'Europe.
Et Clermont qui reçoit le Racing. Et dans le stade, on va retrouver Damien Tardieu. Et Damien, gros début de match du Racing.
Exactement, les Racingmen qui mènent 11 à 5 ici face à Clermont. Un essai d'entrée de Dupichot, notamment le Racing qui menait 11-0 et qui vient d'encaisser quand même un essai là. Essai collectif des Clermontois et aplati par Falgou. La transformation de la part de Camille Lopez est ratée. Le Racing mène donc 11 à 5 ici. On joue depuis 24 minutes.
Damien Tardieu, et puis un petit peu plus tôt dans la journée, dans la petite Coupe d'Europe, Bordeaux a battu Édimbourg 23-14.
Et demain à cette heure-ci, a priori, les coureurs du Tour de France sont d'arriver sur les Champs-Élysées.
Sont arrivés ou sur le point d'arriver.
On suivra tout ça évidemment en direct avec vous, avec toutes nos équipes d'envoyés spéciaux. Merci Simon Rubin, Lionel Rousseau. À tout à l'heure 20h.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Dans une minute, comment éviter l'implosion dans les hôpitaux? Retour d'expérience dans la région Grand Est avec son président Jean Rottner, par ailleurs médecin urgentiste. Il est avec nous sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h18, bonsoir si vous nous rejoignez sur Europe 1, soyez les bienvenus dans notre grand journal. On va revenir de manière pragmatique sur la gestion de crise du Covid, sur le retour d'expérience, car c'est au cœur des commissions d'enquête parlementaire en ce moment. Bonsoir Jean Rottner.
Bonsoir Wendy Bouchard.
C'est le médecin urgentiste, président d'une région sous tension pendant la première vague de ce coronavirus, donc le Grand Est, que je reçois ce soir. Quand vous lisez les derniers chiffres sur la circulation du virus, doublement des décès en une semaine, hausse de 45% des hospitalisations, des admissions en réanimation qui bondissent de 48%, comment voyez-vous les choses, Jean Rottner?
Déjà avec beaucoup d'humilité, parce qu'après ce que nous avons vécu ici, on sait qu'il faut rester extrêmement humble et bien s'adapter à la situation et bien lire les chiffres. La situation, en tout cas dans le Grand Est, ce soir, Wendy Boucher, est relativement stable. Il y a naturellement une augmentation là aussi du nombre de cas détectés, principalement dans les grandes villes, mais on pourra revenir sur cet aspect. Ce que je lis en plus de ma place, et après avoir passé quelques coups de fil pour voir un peu quelle était la situation dans certaines régions françaises, il y a effectivement une progression des appels au SAMU qui progresse dans le sud de 35%. Là où nous étions, nous, à une progression de plus de 240% en quelques jours. Donc vous voyez, il y a une différence de cinétique entre ce que nous avons pu vivre au mois de mars et ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est plus qu'un frémissement. Il y a, c'est vrai, des admissions en réanimation. Il y a 35 lits, je crois, du côté de Marseille, occupés à ce jour. Là où du côté de Metz, nous sommes montés jusqu'à 104 lits de réanimation et avec cette nécessité de passer en plan blanc. Donc aujourd'hui, les chiffres ne sont pas totalement rassurants, sont plutôt inquiétants. Il y a nécessité de faire passer plus que jamais les messages de prévention. Ce sont les seuls qui sont utiles. Et principalement, c'est vrai, dans les milieux urbains, dans les milieux jeunes.
C'est là où le virus circule très clairement aujourd'hui, Jean Rottner.
Voilà. Clairement, c'est là où il circule. C'est là où il est difficile de faire comprendre aussi les mesures de prévention. J'avais encore des témoignages de parents cet après-midi lors d'une manifestation qui me disaient oui, nos jeunes, ils font le mur. Ils sortent entre 2h et 5h du matin, comme ça ils sont sûrs de ne pas se faire attraper. Mmh. Ben, je crois que c'est une bêtise. Et il faut dire aux jeunes que c'est pas un problème de confinement, c'est pas un problème de masque, c'est un problème qui les concerne eux aussi, parce que quand l'économie sera paralysée, ils en paieront aussi quelque part le prix. Et il faut qu'ils aient cette conscience, qui est une conscience pas simplement de la protection, mais une conscience de la responsabilité et de la citoyenneté.
Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'autorité? Est-ce qu'il fallait jusqu'à fermer les bars, les restaurants, comme le souhaitait Olivier Véran, du côté de Marseille notamment et de Lyon?
La force peut-être du plan tel qu'il est, c'est que ce n'est pas un plan national, c'est un plan territorial. Mmh. On l'a suffisamment revendiqué aujourd'hui pour bien l'adapter, pour bien le faire comprendre et pour bien comprendre que la situation de Marseille, c'est pas celle de Strasbourg, c'est pas celle de Nantes, c'est pas celle de Lille, et qu'on doit adapter ces mesures dans un dialogue qui se fait entre l'État en région, donc le préfet, et les élus. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est plutôt adapté à la situation.
Oui.
Et peut-être faudra-t-il effectivement aller plus loin du côté de Marseille, du côté de Toulouse, du côté de Bordeaux, du côté de Lyon, ces villes qui semblent aujourd'hui effectivement présenter le rebond le plus fort, du côté de Paris aussi. Oui, peut-être des dispositions devront-elles être prises pour effectivement protéger ces jeunes.
Jean Rotner, vous êtes président de cette région Grand Est et vous nous parliez de ce plan blanc réactivé en niveau 1. Ça veut dire la possibilité de faire appel à du renfort. C'est une mise en alerte quelque part et vous vous alertez notamment comme d'autres sur la situation dans les EHPAD. 68 clusters, deux fois plus que la semaine passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus, malgré les consignes sanitaires, circule ou qu'il y a encore des lacunes, des maillons faibles dans ces respects de consignes?
Mais je crois que c'est la typologie des établissements où il y a peut-être encore trop d'hésitation. Oui. On en a payé le prix lors de la première vague. Et je pense qu'il ne faut surtout pas répéter ce que nous avons vécu au mois de mars ou d'avril dans les établissements de ce type. Donc là aussi, il y a vraiment le test à pratiquer, à isoler les personnes contacts, à avoir une vraie stratégie pour les EHPAD pour que nous ne connaissions pas les drames qu'on a pu connaître. Et c'était, souvenez-vous, une situation un peu sous-estimée, largement sous-estimée. Et donc, il faut vraiment prendre ces établissements en considération et avoir une stratégie peut-être qui leur soit propre. Et là, les conseils départementaux doivent être mobilisés en lien avec les autorités préfectorales et les autorités de l'État. Je crois que c'est indispensable. Ça a été très mal vécu, naturellement, par les personnes âgées qui se sont senties isolées dans ces établissements,
bien sûr,
mais par les familles également.
Comment éviter, Jean Rotner, qu'après la lacune des masques, cette pénurie de masques, on ait aujourd'hui le paradoxe des tests avec des temps d'attente de résultats qui frisent le ridicule, ce qui exaspère le président lui-même, Emmanuel Macron? Comment on peut se sortir avec plus de pédagogie, un discours beaucoup plus clair sur qui doit aller se faire tester aujourd'hui?
Oui, peut-être aussi une forme de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de partir en vacances et donc d'avoir son test pour atterrir dans un pays ou dans un département d'outre-mer qui le nécessite et donc de rallonger les temps d'attente de celles et ceux qui le nécessitent vraiment, qui effectivement présentent des signes, le personnel soignant, les personnes qui doivent encore être hospitalisées aujourd'hui avec une intervention chirurgicale, oui, et qui nécessitent aujourd'hui encore de réaliser ce test.
Des malades qui suivent des chimiothérapies, qui en ont plus que besoin. Oui.
Voilà. Est-ce que tous ces tests sont vraiment obligatoires pour certains? Et est-ce qu'il ne faut pas être plus radical sur les indications, c'est-à-dire ce qui est superflu, bien doit être soit payant, soit remis à plus tard.
Les campagnes de prévention pour la vaccination anti-grippe seront aussi capitales pour vous, Jean Rotner. C'est un message que vous ferez passer très clairement aussi dans votre région.
Moi, je l'ai fait passer hier dans l'hémicycle de la région, oui, en proposant d'ailleurs à tous les élus régionaux de se faire vacciner. Je crois que ça aussi, c'est une démarche vraiment citoyenne. Et quand on est vacciné contre la grippe, eh bien, on a déjà un diagnostic, ce qu'on dit en médecine, un diagnostic différentiel qui permet d'éliminer là aussi la grippe par rapport au coronavirus. Et donc, vaccinons-nous, c'est vraiment un message absolument indispensable, compte tenu encore de la pérennité de cette épidémie.
Voilà, merci de le diffuser aussi sur l'antenne d'Europe 1. Docteur Jean Rotner, médecin urgentiste et président de cette région Grand Est. Merci monsieur.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
On se retrouve dans un instant avec le journal de l'environnement, Virginie Salmen, et les risques sanitaires liés à la 5G. L'ombre des grands chefs arrive et une chanson dans la tête. C'est Fabien Lecoeuvre qui nous emmène dans les coulisses d'une salle de mémoire mythique, l'Olympia.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard. Le journal de l'environnement.
Comme chaque samedi sur Europe 1, voici le journal de l'environnement. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Le dossier qui nous préoccupe ce soir, c'est celui de la 5G et des effets sur la santé. Vous savez peut-être que l'Agence de sécurité sanitaire va rendre son avis sur ces risques en mars prochain, mais à partir de décembre, eh bien, les opérateurs français vont, eux, allumer justement cette 5G. Mmh. Les maires se mobilisent, un Français sur deux se dit favorable à la suspension de ce déploiement, sondage IFOP. Est-ce qu'on en sait davantage sur les risques sanitaires à ce jour, Virginie?
Alors, les dirigeants de l'agence, justement, qui doit rendre l'avis scientifique au gouvernement sur la 5G, l'ANSES, eux-mêmes disent qu'il y a un manque important, voire une absence de données relatives aux effets sur la santé. Mmh. Pour bien comprendre de quel type d'ondes on parle, j'ai demandé à un professeur à Sorbonne Université, Guy Pujol, informaticien et spécialiste des réseaux, qui publie cette semaine un livre intitulé « Faut-il avoir peur de la 5G ?», de nous faire un petit cours accéléré.
Il y a différents types d'ondes. Il y a les ondes sonores. Quand vous parlez, ben ça va dans l'oreille. Et vous avez les ondes visuelles, qui vous permettent de voir. Les ondes 4G, 5G, c'est les ondes qui sont situées entre les ondes sonores et les ondes visuelles. Alors après, ces ondes, elles peuvent être dangereuses. Dans une onde sonore, si vous mettez votre oreille contre une grosse cloche et que vous la laissez pendant des heures, pendant que la cloche sonne, vous allez avoir mal. Si dans la lumière, vous regardez le soleil pendant trop longtemps, vous allez voir que votre œil va chauffer et il va également pas être très bien. Eh bien, c'est la même chose, les ondes qui sont entre les deux. Si on les met trop fort, eh ben, elles vont être dangereuses parce qu'elles vont chauffer. Et aujourd'hui, la limite des autorités, qui est de 61 voltmètres, c'est équivalent à un son très faible et c'est équivalent à une lumière faible.
Autrement dit, selon Guy Pujol, si les limites de puissance sont respectées par les opérateurs, c'est-à-dire s'ils ne poussent pas la puissance des antennes relais, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On peut être plus inquiet dans des pays où les seuils de puissance des antennes ne seraient pas bien contrôlés. Mais en France, il y a une autre donnée, il va falloir aussi implanter plus d'antennes pour ne pas justement augmenter la puissance du parc existant. Et plus d'antennes, d'abord, ça coûte de l'argent aux opérateurs. Et puis, les écologistes dénoncent une explosion de l'exposition des riverains.
Et puis, il y a autre chose, Virginie, c'est que la 5G ne fonctionne pas technologiquement. Logiquement parlant, comme la 4G.
Effectivement, il y a une nouveauté technologique. Les antennes ne fonctionnent pas en continu, mais elles ciblent un utilisateur à la demande. Et c'est ce que nous expliquait Olivier Merkel, le responsable des nouvelles technologies de l'ANSES, au tout début de l'expertise en cours.
On change complètement de modalité d'exposition dans la mesure où les nouvelles antennes pour la 5G qui vont être installées auront la capacité de concentrer le rayonnement directement pour l'utilisateur. Donc ces faisceaux vont être mobiles. Donc si vous voulez, ça va complètement changer la répartition de l'intensité de l'exposition dans l'espace.
Alors est-ce qu'on sera exposé à davantage d'ondes ? Certains scientifiques estiment qu'au contraire, un flux d'ondes bien dirigé a justement besoin de moins de puissance. L'ANSES, elle, doit encore répondre à cette question, mais aussi étudier une nouvelle longueur d'onde de cette 5G, des ondes plus courtes, donc qui ne pénètrent pas profondément dans le corps. Elles s'arrêtent à la barrière de la peau, mais elles pourraient échauffer la peau et les yeux.
Voilà, ce sera aussi au cœur des réflexions de l'ANSES qui rendra son avis en mars prochain. Merci Virginie Salmen.
Bonsoir.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h30 si vous nous rejoignez, c'est le Fil Info, Sophie Tussaud.
Près de 13 500 nouveaux cas de contamination au coronavirus en France ces dernières 24 heures. 58 nouveaux foyers épidémiques ont également été détectés. Ce sont les chiffres publiés ce soir. Des pluies diluviennes dans le Languedoc. Le Gard est en alerte rouge. Une automobiliste est portée disparue après que sa voiture a été emportée par les eaux. Une crue majeure est en cours sur le Gardon dans l'Uze. L'Hérault, la Lozère, le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes sont pour leur part en vigilance orange. Un homme a été la cible de coups de feu hier devant une maternelle de Marseille au moment de la sortie de l'école. L'adjointe au maire, Samia Ghali, réclame un renfort de police dans la cité phocéenne. Donald Trump veut vite remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg. La doyenne de la Cour suprême américaine est décédée à 87 ans. La disparition de cette icône de la gauche devrait donner lieu à une intense bataille politique à moins de 2 mois de la présidentielle. Et puis en Biélorussie, environ 2000 femmes ont manifesté aujourd'hui contre le président Loukachenko et des centaines de personnes ont été arrêtées par la police.
Merci Sophie. Orage violent depuis 5 heures dans le Gard. Valérie Darmon, vous surveillez la situation. Ça va tonner, pas seulement dans le sud, dans les heures qui viennent, Valérie.
Effectivement, Wendy, prudence aussi sous les orages qui touchent l'Auvergne, le Limousin et qui remontent jusqu'au sud du bassin parisien en ce moment. Et demain, d'ailleurs, le temps va rester très instable sur une grande partie de la France. Les cumuls de précipitations peuvent être importants, notamment cette fois sur le nord de l'Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes. Les averses qui sont en revanche moins soutenues au sud de la Garonne et puis toujours de la Haute-Normandie au Hauts-de-France, du nord du bassin parisien à l'Alsace, le ciel qui sera beaucoup plus lumineux qu'ailleurs.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard. Dans l'ombre des grands chefs.
Chaque samedi, on retrouve côté cuisine Pierre Herbulot et une recette sur mesure à base de cèpes. On est dans le vrai goût du terroir et on vous suit, Pierre.
Il est incontestablement le roi des champignons, Boletus edulis. Le cep, pas donné, mais franchement délicieux. Ce soir, on va le préparer avec un morceau de bœuf et Patrick Bertrand, avec moi, va vous donner tous les trucs et astuces pour réussir une superbe poêlée de cèpes à la maison. Bonsoir, chef.
Bonsoir.
C'est parti, on y va.
On y va.
Alors, ils ont été bien nettoyés, hein, les cèpes.
Ouais, oui, je vais les émincer de façon assez épaisse. Hein. Faut un bon centimètre pour avoir un cèpe qui va pouvoir colorer et cuire et pas se ratatiner. Ici, on aime bien travailler avec la graisse de canard.
Oh, yeah, yeah.
Donc, graisse de canard qui va amener un côté un peu viande sur toutes nos cuissons. D'abord, graisse de canard et ensuite beurre. Il faut éviter que le cèpe prenne de l'amertume. Si on le colore trop rapidement, ce ne sera pas agréable. Donc on, On n'hésite pas, on les retourne. Pendant ce temps-là, je vais démarrer la pièce de viande.
On assaisonne ?
On assaisonne, sel et poivre des deux côtés. Et il faut toujours prendre soin de laisser la viande prendre la température de la pièce où on va le cuire.
On ne sort pas du frigidaire ?
Non, parce que sinon ça fait un choc thermique et ça va resserrer les films. Donc même chose, hein. Un peu de graisse de canard.
L'objectif, en fait, c'est de bien saisir la viande pour que la chaleur pénètre à l'intérieur. Ensuite, comme les cèpes, on va la laisser reposer. Elle va continuer à cuire, mais sans bruit.
La deuxième cuisson. On va d'abord lancer les cèpes. Donc, une belle noix de beurre. Je vais ajouter les cèpes. Un tout petit peu d'échalote, comme ça.
Une pincée, on va dire.
Voilà. Même chose en ciboulette. Un tout petit peu de pignon de pin. Hein, je rappelle, c'est parce que nous dans le Morvan, on trouve les cèpes la plupart du temps dans les sapinières. Donc là, on remet le cèpe dans son élément de pousse. On les fait un tout petit peu de côté. Et là, à cet instant-là, on retire la poêle, on les laisse tranquillement finir de cuire. Maintenant que la viande elle a bien reposé, alors même opération, une toute petite noisette de beurre, calée d'une cuillère, on va venir tout doucement comme ça, arroser pendant une minute la viande pour qu'elle se nourrisse et qu'elle prenne le bon goût du beurre noisette, mais sans que le beurre ne brûle, bien entendu. Maintenant, on va passer au dressage. Donc les cèpes, de nouveau, évidemment, faut les égoutter. Hein, on ne va pas manger des cèpes remplis de beurre écœurants. Hein. Ouais. Donc on les repasse sur le papier absorbant. Donc là, je prends mes cèpes et je les dresse comme ça en quinconce, légèrement en diagonale. Maintenant, je vais faire la même chose avec la viande.
On vient recouvrir nos cèpes.
Voilà. Allez, on goûte.
On est vraiment heureux. Hein. Moi, j'adore l'automne parce que le cèpe, c'est formidable. C'est sa texture qui est incroyable. C'est craquant autour.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on a la mâche du champignon. Il est ferme, il a du goût, il est juteux. Et il y a cette viande qui vient sur le dessus, qui est tendre grâce à sa fibre.
Merci beaucoup, Patrick Bertrand.
Merci. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à la refaire chez vous.
Voilà, ça va intéresser Thibaut Normand, Caroline sur Twitter. Il se lance un défi culinaire chaque soir et je vous remercie, chers amis auditeurs. Pierre Herbelot sera content. Tout ça à retrouver sur le site d'Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h36, nous mettons à cette heure-ci, chaque samedi, en lumière l'écologie du quotidien, l'écologie locale qui vise à construire un monde plus propre, plus respectueux de l'environnement. Bonsoir Daniel Cueff.
Oui, bonsoir.
Vous êtes maire honoraire de la ville de Langouette. On est au nord de Rennes avec votre commune et votre village accueille le premier traceur photovoltaïque d'Ille-et-Vilaine. C'est un panneau solaire installé sur un mât pivotant qui suit la course du soleil pour être plus productif. À quoi vous sert-il ce traceur ?
Ben écoutez, c'est la première expérience en France, ou en tout cas l'une des premières expériences en France, qui permet de produire de l'électricité pour les habitants.
Oui.
Jusqu'à présent, les communes n'avaient pas l'autorisation de le faire. Depuis 2017, chaque collectivité, chaque commune de France peut aujourd'hui produire de l'énergie et la livrer et la vendre à ses habitants.
Aujourd'hui, ce traceur permet de fournir l'électricité à l'école, à la mairie, à quelques habitations également ?
Oui, pour l'instant, c'est très, très nouveau. Donc, il y a une petite vingtaine d'habitants qui sont clients de cette production d'énergie locale.
Mm-hmm.
Donc, on va voir d'ici un an les effets que ça a. D'abord, est-ce que les personnes vont réussir à essayer de consommer le plus possible cette énergie produite localement ? Donc, ça, on va le vérifier. Et puis, d'autre part, est-ce qu'ils vont prendre conscience de leur facture d'énergie et essayer aussi de consommer le moins possible, mais au bon moment.
Oui, ça ne sera ni plus cher ni moins cher pour les habitants. Pour eux, en termes de facture, ça ne change rien. En revanche, ça réduit considérablement les parcours d'énergie et donc les déperditions, Daniel Cueff.
Ben oui, puisque vous savez, c'est pas politique, tout ça, c'est physique. C'est-à-dire un électron qui est produit localement, il est consommé localement, au plus près. Il va chercher un client le plus près possible. Donc l'électricité ne part pas je ne sais où, dans des câbles je ne sais où, et il reste sur place. Et c'est donc une avancée très considérable en termes de services publics d'énergie renouvelable locale.
C'est l'autoconsommation collective, premier projet du genre, qu'ont souhaité à la fois la mairie et les habitants, Daniel Cueff. Ça a été un projet commun.
Oui, c'est un projet commun parce qu'on ne peut rien faire sans les habitants. Et puis, c'est un projet aussi compliqué sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan technique. Mais nous avons eu une convergence de planètes entre des entreprises qui nous ont aidés, la région Bretagne qui nous a aidés, le syndicat d'électrification qui nous ont aidés. Enfin, tout un tas de gens qui se sont dit « chiche, la loi nous permet aujourd'hui d'être producteurs d'énergie pour les habitants ». D'énergie locale, renouvelable, fonçons.
Oui, et l'idée c'est de généraliser à la commune entière d'abord, et puis d'aller de plus en plus loin.
Oui, c'est une première pierre, donc on a beaucoup d'espérance par rapport à cette énergie locale renouvelable, puisque effectivement l'électron qui est produit localement va être consommé localement, ce qui soulage le réseau électrique national, et ça c'est un élément extrêmement important. Et puis en plus c'est un service public de l'énergie renouvelable.
Alors vous allez regarder de quel panneau se chauffe cette commune de Langouette, le premier traceur photovoltaïque d'Ille-et-Vilaine dans cette ville de Langouette au nord de Rennes. Merci Daniel Keuf, maire honoraire, qui avait suivi et porté ce projet avec vos administrés.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Dans un instant, en chanson aussi, on entre dans les coulisses avec Fabien Lecoeuvre d'une salle mythique. Rendez-vous à l'Olympia ce soir.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard. Une chanson dans la tête.
C'est votre rendez-vous culturel chaque week-end. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Notre spécialiste de la chanson française est là pour fêter le patrimoine en musique. On va aller dans une salle mythique, l'Olympia.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
Alors l'Olympia, véritable monument du spectacle. L'Olympia a une dimension immense dans l'inconscient collectif des Français, mais aussi celui des amoureux de la musique du monde entier. Alors depuis son ouverture en février 1954, plus de 45 millions de spectateurs Wendy se sont précipités pour applaudir les plus grandes stars du monde entier.
Oh oui.
Alors, au départ, en 1888, est érigé en lieu et place du futur Olympia un immense jeu de montagne russe en bois venu de Blackpool en Angleterre. Et bien sûr, après une pétition signée par des milliers de riverains, ce lieu de divertissement jugé trop bruyant et dangereux, oui, pour son risque d'incendie, est détruit. En remplacement, le propriétaire Joseph Holler fait construire alors une salle de spectacle qu'il baptise Olympia, tenez-vous bien, en hommage à une jolie demoiselle Olympia, une de ses nombreuses prétendantes.
Le pouvoir des femmes, hein, Fabien, toujours.
Exactement.
Aussi ce Joseph Holler qui invente le mot musical.
Oui, exactement, Wendy, créé justement par Joseph Holler et inauguré par la Goulue, l'Olympia ouvre ses portes le 12 avril 1893. Holler désire faire de cet endroit un café-concert, mais ne souhaite pas utiliser ce terme. Il cherche un mot nouveau,
plus,
de préférence à consonance anglaise. Oui. Mais l'ennui, c'est que Joseph Holler ne parle pas l'anglais. Il s'adresse alors à un ami bilingue pour connaître la traduction du mot salle, hangar. Bref, son ami lui souffle. Alors le mot « hall » et Holler lui demande aussi la traduction du mot « musique », c'est vous dire, en anglais, ce qui fait « music ». Et voilà, pour l'histoire, comment est véritablement né le mot « music hall » dans les coulisses de l'Olympia durant l'année 1893.
La petite histoire dans la grande histoire. Europe 1 et l'Olympia, c'est aussi cette histoire, les musicoramas.
Hey. Les musicoramas, voilà, sont nés sur Europe 1 à partir de 1957, Wendy, et ça correspond d'ailleurs avec l'arrivée du transistor, vous savez, cette radio transportable avec pile. Et donc le président directoire, bien sûr, d'Europe 1, Sylvain Floira, à l'époque, aidé de Pierre Delanoë, qui était parolier et directeur des programmes à l'époque d'Europe 1, ont décidé de retransmettre des concerts à la radio pour ceux qui se déplaçaient ou pour ceux qui ne pouvaient pas se payer une place. Et alors celle qui a participé de très nombreuses fois au Musicorama, c'est bien sûr Dalida, l'épouse de Lucien Maurice, le directeur général d'Europe 1.
Et voici Dalida.
L'histoire d'un amour.
En direct sur Europe 1, donc depuis l'Olympia, Dalida.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs.
Ça avait de la gueule, hein, ces concerts.
C'est une chanson sur laquelle a été conçue d'ailleurs Denis Briand. C'est lui qui me l'a confié un jour.
Écoutez,
cette chanson de Dalida.
Le, le premier à s'être produit sur la scène de l'Olympia et le recordman d'ailleurs du nombre de dates dans cette salle, c'est Gilbert Bécaud.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie?
Tube planétaire, Wendy, mais surtout à cette époque, on invente le mot fan pour désigner le public de Bécaud.
Ah,
les fauteuils rouges, oui, de l'Olympia ont véritablement contribué à sa légende, car pour son deuxième passage sur la scène de l'Olympia, c'était le 17 février 1955, Gilbert Bécaud provoque l'hystérie collective chez les spectateurs, spectatrices plutôt. La salle est dévastée et la scène recouverte de soutien-gorge et de petites culottes. Alors le patron Bruno Cocatrix en fait un argument publicitaire, bien sûr, et déclare aux journalistes: 300 sièges ont été détruits à l'Olympia hier soir. C'est d'ailleurs suite à ce spectacle de 1955 que l'on invente le mot fan, dérivé de fanatique bien sûr, pour désigner le public de Beko. Avant Beko, les artistes avaient des admiratrices, des admirateurs. Après Beko, à l'Olympia, les chanteurs ont désormais des fans.
Et puisque vous parlez de fans, on est obligé de penser à ceux qui se sont produits aussi sur cette scène, les Beatles. Oh yeah. Les vedettes dans le vent ont et été oui. aussi attirées par ces fauteuils rouges.
Évidemment, et en matière de confidence, Wendy, les Beatles acceptèrent de se produire sur la mythique scène de l'Olympia après avoir vu en septembre 61 un concert, tenez-vous bien, de Johnny Hallyday. Et oui, en effet, alors inconnus, John Lennon et Paul McCartney, en vacances à Paris, passaient sur le boulevard des Capucines, décidèrent d'entrer dans ce célèbre théâtre parisien pour assister à un concert de Johnny et pour admirer cette fameuse salle déjà connue bien sûr dans le monde entier.
Et ils y retournent donc 2 ans plus tard sur cette scène de l'Olympia.
Absolument, un engagement pour 41 représentations avec un cachet de 3000 livres sterling par jour et pendant 3 semaines, car souhaitant monter un spectacle à la mode pour les jeunes, Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia, et Jean-Michel Boris, son précieux collaborateur, signent le mercredi 17 juillet 1963 avec le manager des Beatles, un contrat d'engagement du groupe pour la période du 16 janvier au 4 février 64. Et pour Cocatrix, bien sûr, les Beatles, dont la carrière débute en France, ne peuvent pas remplir les salles. 2 fois par jour, matinée et soirée, et aussi longtemps, ils engagent donc 2 têtes d'affiche, on va dire Trini Lopez et Sylvie Vartan.
Et on va reparler de Johnny Hallyday, Johnny et l'Olympia, une grande histoire.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dents.
La première fois qu'il y chante, il a quel âge, Johnny ?
Il a 12 ans, Johnny, parce que c'est un jeune garçon de 12 ans qui ne s'appelle pas encore Johnny Hallyday. Il chante pour la première fois l'Olympia. Au mois d'avril 1955, un jeune garçon de 12 ans qui accompagne ses cousins Desta et Eli Hallyday, bien sûr.
Oui.
Il l'entraîne dans les coulisses, il partage l'affiche de Charles Trenet ce soir-là. Et adolescent, il chantait déjà un peu David Crockett, il chantait les chansons d'Henri Salvador. Et puis il y reviendra 6 ans plus tard, en septembre 61, pour lancer le twist en France.
Incroyable. Et puis on ne peut pas parler de l'Olympia, Fabien Lecoeuvre, sans parler de Jacques Brel, évidemment.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour.
Jacques Brel, ben, et quand on n'a que l'amour, à l'Olympia.
Ouais, à l'Olympia, grand, grand moment, l'histoire est incroyable. Sa première Olympia de Brel, 15 décembre 58. Et puis Jacques Brel est engagé pour la première fois à l'Olympia, en première partie de Philippe Clay, bien sûr. Et tenez-vous bien, le premier soir, Brel fait un tel triomphe qu'il vole la vedette à la tête d'affiche du spectacle Philippe Clay. Et oui, c'est arrivé, la salle en liesse réclame une autre chanson, son dernier tube, Quand on a que l'amour, terminé. Brel a du mal à quitter la scène, même après l'entracte et pendant les premières chansons de Philippe Clay. Évidemment, le public réclame encore Jacques Brel, Jacques Brel. Alors intelligemment, Philippe Clay arrête son tour de chant et avec le public, il appelle Jacques Brel. Voilà comment Brel
est né
star ce soir-là. Il pouvait enfin pouvoir commencer sa carrière.
Et la dernière soirée des adieux de Jacques Brel à l'Olympia, c'est en octobre.
Le jeudi 6 octobre 1966, et avec 7 rappels, il reviendra plusieurs fois sur scène pour bien sûr annoncer qu'il ne remontera plus jamais sur une scène.
Fabien Lecoeuvre, l'histoire de l'Olympia entremêlée à celle d'Europe 1, c'est ce qu'on aime aussi dans cette chanson dans la tête. On fêtera et on célébrera ensemble les chansons du patrimoine demain.
Absolument.
En ce week-end dédié. Merci.
Avec
Fabien.
Un beau répertoire.
Ah, merci, à demain Fabien.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
19h.
Une date, une histoire.
19h52, je vous laisse en compagnie de Philippe Legrand avec une personnalité qui se souvient d'un fait qui a marqué notre actualité. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy. Bonsoir à tous. Retour ce soir dans les années 50, des années passion, intense et inattendue, où tout semble possible. La guerre est finie, les Trente Glorieuses redonnent du souffle à l'économie, les créateurs préparent la révolution de la mode féminine. Bonsoir Alexandre Jardin.
Bonsoir.
Vous êtes entre autres l'écrivain des passions et vous avez choisi ce soir, le 28 novembre 1956, les Français découvrent Brigitte Bardot à l'affiche du film « Et Dieu créa la femme ». On se met dans l'ambiance, extrait.
Et si tu te mariais ?
Qui voudrait de moi ?
Tu ferais pas une bonne épouse ?
J'aime trop m'amuser.
Jolie comme tu es, c'est normal.
Je sais pas, c'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Il y a quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises.
Et si tu étais amoureuse, ça changerait ?
Peut-être. J'ai jamais autant parlé de moi.
Quelle voix ! Un dialogue
entre Jean-Louis Trintignant, qui tient un rôle, celui de Michel, et bébé, Brigitte Bardot, qui tient celui de Juliette. Pourquoi cette date, Alexandre Jardin, du 28 novembre 1956 ?
Parce que l'air de rien, derrière un film, c'est l'histoire qui bascule. C'est l'irruption des femmes. C'est l'irruption de la liberté des femmes, à travers cette fille qui va être beaucoup plus qu'une actrice, beaucoup plus qu'un monstre du cinéma.
C'est le début du mythe ?
Oui, mais du mythe des femmes elles-mêmes, à travers elles. Ça passe simplement à travers elles. C'est pour ça que c'est aussi important. Et l'histoire de ce film, au fond, est peu importante. Ce qui est important, c'est le sujet, c'est la liberté des femmes et leur puissance.
Une puissance incroyable, parce que finalement, et vous les racontez dans vos livres, mais là, dans ces années 1956, dans cette année-là, qui aurait pu imaginer, au fond, la naissance de ce mythe derrière lequel un certain nombre de femmes se retrouvent ? Le film est accueilli en France aussi, il faut le dire, avec des critiques, aux États-Unis, avec deux fois plus de critiques, le mouvement de protection des mœurs se mobilise, et pourtant, il arrive à s'imposer aujourd'hui encore, comme vous le laissez entendre, ce film est une référence.
C'est beaucoup plus qu'un film, c'est une charnière. Et en réalité, parfois, les œuvres d'art portent les grandes bascules de nos sociétés. Et on sait bien que ce que va incarner Bardot, c'est beaucoup plus que sa beauté, c'est beaucoup plus que le cinéma. C'est l'insolence féminine qui débarque. Je veux dire, c'est la joie d'être une femme en liberté.
Cette liberté-là, elle inspire les artistes et les écrivains. Est-ce que dans vos romans, on a trouvé un peu de cette femme avec ce charme, cette séduction, et vous le dites, cette insolence ?
Alors ça revient, Dieu merci. Et c'est vrai que si aujourd'hui, moi j'écris autant sur des héroïnes, c'est parce que l'histoire est à nouveau racontée par les femmes. Et ça veut dire que l'histoire va redémarrer. Ça veut dire qu'on est à un moment charnière, et que la prochaine histoire doit être incarnée par des héroïnes. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment.
Alors cette héroïne, bébé, qui tient le rôle de Juliette, ce 28 novembre 1956, dans ce film « Et Dieu créa la femme » que vous nous racontez ce soir sur Europe 1, Alexandre Jardin, cette héroïne-là, au fond, elle lance un mouvement, celui de la liberté des femmes, mais pas du féminisme.
Mais surtout, elle le fait avec une telle jubilation qu'elle embarque tout le monde. Bien au-delà des cercles du féminisme, elle va embarquer. Elle le fait avec plaisir. Et le plaisir, c'est révolutionnaire.
Alors, on va l'entendre à nouveau. On va retrouver sa voix chez Jean-Claude Brialy dans « Il était une fois les stars » sur Europe 1. C'était le 8 août 1991.
Je ne suis pas impudique, en fin de compte. Je suis nature. C'est très différent. Mais ce qui est naturel n'est pas impudique. Ce qui est impudique, c'est ce qui est recherché ou antinaturel. C'est de le faire exprès qui est impudique. Et moi, j'ai jamais fait exprès d'être naturelle. Par exemple, quand j'étais nue dans mes films, pour moi, ça me paraissait naturel puisqu'il fallait que je sois nue dans cette scène-là. Ça ne me paraissait pas être impudique. Et à l'époque, on a dit que j'étais impudique. Maintenant, c'est la bibliothèque rose à côté de ce qu'on voit.
C'est drôle. Cette voix incroyable. Et au fond, derrière cette insolence qu'on raconte, cette liberté que vous nous développez là, avec ce regard de l'écrivain que vous êtes, Alexandre Jardin, il y a aussi cette dimension qu'elle évoque, qui est très importante, celle du naturel. Au fond, on peut tout faire et tout dire en étant naturel.
Mais c'est ça qui est dévastateur. Rien n'est plus puissant que la sincérité, que le naturel. C'est inarrêtable.
Alexandre Jardin voulait raconter ces femmes, hein, des romans, on les connaît, on les a, Fanfan, mais aussi bien Le Zèbre, encore un succès, et Française, chez Albin Michel. Un roman, j'ai envie de dire, mais aussi un hymne.
Je raconte l'époque, ce qui est en train de se passer, et ce qui est en train de se passer dans les milieux populaires français. Ce pays qui est en train de se réveiller, dans ses profondeurs, et je ne pouvais le raconter que par une femme. Et par une femme qui, là encore, n'a pas de surmoi. Et qui les raconte toutes. Mais elle a cette particularité de ne pas être retenue. Elle n'a pas de pédale de frein. Elle est radicalement elle-même. D'où cette masse invraisemblable de courriers que je reçois, de femmes qui lisent ce livre et qui s'autorisent.
Dans ces courriers, il y a une lettre de bébé, Brigitte Bardot ? Non, peut-être ?
Je regarderai demain matin.
Merci Alexandre Jardin d'être venu sur Europe 1 nous raconter ce soir ce 28 novembre 1956 pour retrouver d'une certaine manière peut-être en Harley Davidson, retrouver bébé
et vos françaises. À bientôt. Merci.
Je n'ai besoin de personne en Harley.
Ainsi se termine ce 18-20. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy et à demain.
Merci à Rémi Duprat d'avoir réalisé cette émission. Valérie Danon, Naïba Benchemal de la programmer à mes côtés. À demain, chers amis. Portez-vous bien.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.